Auditrices, auditeurs de Radio Mandeléo, bonjour et bienvenue dans cette émission Paix et Développement. Paix et Développement est une émission de Radio Mandeléo qui passe tous les dimanches de 7h45 à 10h30. La rediffusion, c'est tous les lundis 19h30 sur Radio Mandeléo. Nous avons des sujets qui vont nous intéresser dans cette émission Paix et Développement. C'est d'abord des négociations de paix cruciales concernant l'Est de la RDC, faisant suite au processus de Doha qui sont prévus en Suisse du 13 au 17 avril 2026, impliquant les gouvernements congolais et l'AFC-M23. Ces discussions porteront sur l'accès humanitaire, le désarmement et la sécurité. Parallèlement, la coopération internationale et le développement se renforcent. Pourquoi la délocalisation des pourparlers qui se tenait à Doha au Qatar? Pensez-vous que cette fois, les deux parties, à savoir le gouvernement congolais et l'AFC-M23, vont s'entendre pour le retour de la paix en République démocratique du Congo? C'est le tout premier sujet à débattre dans cette émission Paix et Développement. Vous l'avez entendu, chers auditeurs, le président des États-Unis, Donald Trump, mène une guerre en Iran, appelée Troisième Guerre du Golfe. C'est un conflit qui a débuté le 28 février 2026 cette année par une opération militaire conjointe américano-israélienne consistant en des frappes aériennes sur l'Iran. Du côté israélien, l'opération est nommée Opération Lion Rugissant. Et dans une déclaration faite jeudi 9 avril à Kinshasa, la société civile Force Vive de la RDC a affirmé son opposition au projet du gouvernement congolais visant à accueillir sur le sol congolais des migrants expulsés des États-Unis d'Amérique, un projet convenu entre le président américain Donald Trump et congolais Félix Tshisekedi. Quelle analyse faire de la politique du président américain Donald Trump? Quelle est la conséquence de cette guerre du Golfe sur l'économie de cette partie de la RDC? Nous allons en parler dans cette émission Paix et Développement. Comme je l'ai dit, nous sommes dans ce studio de Radio Mandeléo. C'est jusqu'à 10h30. La rediffusion de l'émission, c'est tous les lundis 19h30. Nous sommes suivis sur 88.8. Mais également sur le www.radiomandeleo.info.org. Merci et dans quelques instants, nous allons commencer cette émission Paix et Développement. Merci, chers auditeurs de Radio Mandeléo. Nous allons accueillir dans ces studios les invités qui sont déjà là. Elie Habibou Fariala, qui est le conseiller politique du gouverneur Patrick Boussoubangui. Bonjour, Elie Habibou.
Bonjour, cher Thaïs. Bonjour à tous les camarades avec qui nous sommes ici présents sur ces studios. Bonjour à tous les auditeurs et aux auditrices de la Radio Mandeléo. Bon dimanche.
Nous sommes avec Bossingis Jean-Pierre, qui est membre de l'AFEC, c'est un opérateur économique. Bonjour, Bossingisi.
Oui, bonjour, monsieur Thaïs, et bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la Radio Mandeléo.
Nous sommes avec Oswald de Mouemeri Rubacha, qui est de l'ASBL Clinique Électorale Congolaise. Il est également du groupe thématique Élections et Gouvernance de la Société Civile du Sud Kivu. Bonjour, Oswald.
Bonjour, cher directeur. C'est encore un honneur pour moi de participer à cette émission. J'en profite pour saluer tous les amis qui sont avec nous au studio, mais aussi à tous les auditeurs de Radio Mandeléo.
Nous sommes dans ce studio avec le pasteur Miga Bonyagaz Albert, qui est le cordeau des chefs de quartier de la ville de Bukavu, mais il est le chef de quartier Ndendere. Bonjour, pasteur Migabo.
Bonjour, papa Thaïs. Bonjour aux auditeurs, auditrices de la Radio Mandeléo. Bonjour à mes frères autour de cette table pour Radio Mandeléo.
Voilà, nous allons d'abord ouvrir une rubrique dans cette émission qui va se passer en français et en swahili avec le pasteur Miga Bonyagaz Albert. Je vous ai dit qu'il est le cordeau des chefs de quartier ville de Bukavu, mais également il est le chef de quartier Ndendere. C'est par rapport à ce phénomène qui prend l'envol dans la ville de Bukavu et qui consiste à créer des conflits, des gens qui vendent de parcelles à deux ou trois personnes. Ça crée des problèmes dans la ville de Bukavu. C'est pourquoi nous avons invité les pasteurs Migabo pour en parler, essayer un peu d'interpeller la population, d'éviter ce genre de pratiques qui créent des conflits entre des individus, entre des familles. Pasteur Migabo, vous avez la parole. Je ne sais pas si ce constat, vous l'avez fait également.
Merci beaucoup, Thaïs. Ce constat a été fait, pas seulement par moi, mais par les autres. Nous souffrons, ça fait déjà un temps que certains...
Ah voilà, nous avons connu une panne d'électricité, c'est curieux que le système Cash Power pose aussi problème. Mais je crois que nous sommes maintenant bien suivis à la maison. Pasteur, nous sommes en train de parler de ce phénomène qui crée des conflits, les faits pour des individus de vendre des parcelles ou des maisons à deux ou trois personnes. C'est un phénomène qui est en train d'évoluer dans la ville de Bukavu. Pasteur Migabo, vous avez la parole.
Merci beaucoup, Thaïs. C'est vrai, ce problème de vente d'une parcelle ou d'une maison à deux à trois personnes frise la cohésion, la paix, même le développement de la ville de Bukavu. Et nous regrettons cette situation et nous pouvons sans honte, mais vraiment, je voudrais que les gens comprennent que quand nous examinons, nous avons constaté que certains, je parle bien de certains, commissionnaires sont des acteurs principaux, selon les constats que nous avons déjà faits dans notre synergie. Vous allez vous rappeler que depuis la libération pacifique de l'AFC M23, la ville de Bukavu, le 16, à 6h30, il y a eu, à partir maintenant du 1er, mars, il y a eu des nominations de certaines personnes à certains postes que nous avons appelés de Pefoko. Au niveau du parquet, on a mis un certain Mugisha Junior. Mugisha Junior, après avoir fait un constat, il a sillonné au niveau du parquet, vérifié les documents. Il a constaté que 95% des dossiers étaient vraiment des dossiers civils. Les dossiers qui pouvaient prendre, même avoir des solutions palliatives au niveau de la base. Lui, il nous a appelé, il a appelé les autorités qui étaient déjà sur place dans la ville de Bukavu. Il a dit que ce constat-là, il a dit que non, je viens devant vous pour dire que les cadres de base, nous devons valoriser. D'ailleurs, c'est ça, ça a été la thématique de ce jour-là, la valorisation de l'autorité à la base pour encourager une justice rapprochée et une justice transitionnelle pour éviter les autorités à la base étiquette. Il faut qu'on crée un centre de médiation et de réconciliation dans les quartiers pour les affaires civiles. Je parle bien pour les affaires civiles. Il a montré que ces dossiers, ce qu'il avait constaté, et il a commencé à envoyer des dossiers pareils, les envoyer dans des quartiers. Et au niveau du quartier, pour cette année, l'année passée, nous avons reçu 86 dossiers, mais entre autres, il y avait 75 dossiers fonciers. Soit par une parcelle qui était vendue à 2 à 5 personnes, les parcelles sans servitude ou encore canalisation, c'est-à-dire qu'un commissionnaire qui donne, qui partage, qui s'y sonne une parcelle, mais quand ils sont encore là tous, ils montrent que voilà les passages, voilà la canalisation, voilà la servitude, mais il revient encore derrière les dos des autres dire que non, et bon, est-ce que nous avons dit, il y a un génie, il y a un kido, il y a un kido, 2 mètres, est-ce qu'on peut encore, ben nous avons dit, il y a un mètre, il y a un kido. Et un malais parmi ces gens-là, il revient, il dit non, mais j'ai pu même acheter les deux mètres restants. Quand il revient, et il commence rapidement à construire. Les autres, quand ils viennent, ils rencontrent déjà la parcelle leur parcelle, les parcelles, leur mètre, les mètres ou la dimension n'est plus correcte. Et ça crée un sérieux problème. Soit il y a aussi vente de servitudes, comme je l'avais dit, ou débordement des bornes, ou vente de servitudes, ou encore un enfant qui veut vendre la parcelle laissée par les parents, ou un enfant qui a pensé que lui, il a parti, et ce n'est pas la partie qu'il a eue qui devrait le mériter, ou un papa directement qui a un conflit avec son épouse, et directement il sort il quitte la maison. Maman est là, les enfants sont là, mais comme il a déjà les documents, il va la même parcelle à quelqu'un à l'extérieur déjà. Quelqu'un qui a acheté la parcelle, quand il vient, ou la maison, quand il cherche à entrer, la famille dit non, miette, les enfants refusent, la maman dit non, bilhatwijoui, bilenibiako, ou même un enfant qui cherche à chasser la maman qui était dans la maison après la mort de son mari. Et cela a créé un sérieux problème avec toutes les conséquences possibles. Quand nous avons constaté ça, et nous avons encore ramené les rapports auprès du procureur, et il a encore invité toutes les autorités de la ville de Bukavu, et cette fois-ci avec les commissionnaires. Nous avons pris une décision, on a dit, on a précisé, on a dit cette fois-ci, qu'aucune vente sans participation des quatre témoins, des témoins, soit des quatre voisins, pour la restitution de la reconstitution des limites. Avoir aussi une lettre d'avis des copropriétaires et aussi aucun acte de vente sans signature et sceau du quartier. Et le chef de quartier fait aussi partie prenante de la vente. On avait dit que les commissionnaires doivent aussi avoir une lettre ou encore une carte qui est reconnue par la mairie et par leur association. Et lors de démission des services spécialisés en matière foncière devrait être aussi visé par les quartiers. Et on a parlé aussi que même pour la prime des commissionnaires, ne faudrait pas qu'ils puissent hausser cette prime-là, mais au moins 5% pour que chaque partie puisse payer 2,5 et une autre partie 2,5. Qu'est-ce que nous avons constaté enfin pour ces actuellement? Nous avons, à partir de janvier jusqu'à maintenant, nous avons déjà jusqu'au 10, j'ai dit bien janvier jusqu'au 10, nous avons déjà 52 dossiers, dont 47 dossiers sont fonciers. Craignant une ampleur inédite de déséquilibre social, psychologique et violence physique, verbale, sanitaire, même environnementale, raison pour laquelle j'ai accepté cet appel pour dire que je peux être devant le micro de la radio Maendeleo pour primo sensibiliser la population informée, secondo persuader même c'est nos amis, nos frères et sœurs, commissionnaires, tertio mettre en garde certaines personnes et enfin solliciter une aide ou même un soutien auprès des autorités qui ont dans leur tâche, dans leur mission, les fonciers. S'agissant de la sensibilisation, je voudrais franchement rappeler, demander à toute la population de notre circonscription, de notre ville de Bukavu, qu'il y a des personnes qui ont hypothéqué leur vertu au mal. Ces gens sillonnent jour et nuit pour seulement dire que nous avons des parcelles, nous avons des maisons à Bukavu qui peuvent être vendues. Mais malheureusement, ils n'ont rien, ils n'ont pas ces maisons, ils n'ont rien. Mais de toutes les façons, ils sillonnent dans la ville de Bukavu pour dire qu'ils peuvent vendre les maisons qu'ils n'ont pas. Et quand on donne ces prix, quand ils récoltent l'argent, ça crée un sérieux problème. Je vous dis franchement que la fois dernière, nous avons suivi une scène, une maman qui avait déjà acheté sa maison. Il y a quelqu'un qui est à Kinshasa, il demande à des commissionnaires de vendre la maison. On donne la maman a donné la maison la première, mais celui-là, il appelle quelqu'un d'autre, un autre commissionnaire. Vendez-moi la maison au niveau de la poste première. Et l'argent arrivait chez l'autre, mais de toute façon, maman qui était dans la maison, il voit quelqu'un d'autre qui vient, il dit non, j'ai déjà acheté la maison. Mais tu vois, il photocopie d'abord l'acte de vente qu'il envoie à tous ces commissionnaires-là. Tu vois un grand conflit. Et ça nous cause un sérieux problème. Je voudrais demander alors à la population d'être beaucoup vigilante quand avant de donner l'argent, d'acheter une maison, avant d'acheter une parcelle, il y a quand même les vieux sages qui sont dans l'avenue, qui le chef d'avenue est là, les gens qui connaissent que la situation de cette parcelle. S'agissant de pour la persuasion de nos amis, de nos frères, notre souhait le plus vif est de voir ces hommes vraiment être des hommes et des femmes de culture, de paix, de cohésion sociale et de développement dans leurs actions. Ils doivent créer aussi une convivialité qui suscite une relation pratique agréable à toute la population. Et aussi, ils doivent avoir la volonté d'utiliser leur vie quotidienne pour les bonnes choses, pour la stabilité de la communauté. Et ils doivent savoir que c'est vrai, on a toujours dit qu'à 95%, nous sommes des chrétiens, c'est-à-dire que quantitativement, nous sommes des chrétiens, mais il faudrait l'être aussi qualitativement. Nos amis là doivent comprendre que, en tout cas, ils doivent travailler pour la stabilité de notre province, de nos avenues, de notre quartier, et aussi à nos chefs d'avenue qui travaillent chez nous à terre en faisant des collaborations avec les gens qui peuvent vendre une parcelle deux fois. On voulait que ces gens comprennent qu'un chef vrai doit défendre sa population, doit se rabaisser à la taille de cette dernière et souffrir avec elle. S'il y a un problème, qu'on puisse dénoncer et chercher une solution. Alors solliciter l'accompagnement des services spécialisés en matière foncière pour dire que l'État est le tout partout, il est le régulateur de tous les secteurs de la vie, et si on peut traquer ces personnes qui pensent qu'ils ont tous les pouvoirs, ils sont le monopole de piétiner les droits des autres, et en fait que la tranquillité publique nous donne aussi sachant qu'une tranquillité publique nous donne un avenir radieux, reflète le bonheur et la satisfaction de la population. Quand vous suivez Thaïs, il faut vivre la situation que nous sommes en train de vivre dans les avenues. Quand on a donné la parcelle, la maman qui était là ou le papa qui était là ont distribué ensemble, mais quand il revient, il rencontre déjà, il avait 7 sur 8, mais dans un laps de temps, quand il arrive, il trouve qu'il a déjà ne fils que 2 sur 2, il ne sait plus, il est déjà humilié, il n'a pas même le passage, il n'a pas. Rappelez-vous, il y a quelqu'un la fois dernière, il avait acheté une parcelle, mais malheureusement, ils ont acheté à 4, on avait très bien délimité la parcelle, mais quand il arrive maintenant avec ses enfants, dire que nous pouvons voir comment nous pouvons aussi commencer à faire une petite activité, en effet, qu'à parler, mototo anauliza, est-ce qu'il y a quoi toi pas? Ça va bien, il va qu'on a jenga, lakini bana kutana kwenye alikuwa kwa kinabalisha muonyeshe kwake, anasema baba yake anauliza, mtoto wake yake anauliza, est-ce que hapa ndio tuliuzaka? Bananza ulizana. Kisha papa anaambia watoto, ninasikia sawa kichwa na lumu. Ninasikia sawa jisikie mzuri. Watoto wanaambia papa, na turudie kwanza kunyumba tuambie mama na hivi. Tusikie tutajikomporte namna gani. On avance 4 mètres. Kisha nani baba anamwambia, ninasikia sawa. Sitafika sababu ni aliushaka nyumba zake mbili. Kusudi apate ile nyumba moyomoya vemi, dimil. Kusudi aende apate fasi ingine, karibu na kwenye kanisa yake na kuwaka ya vemil. Kisha mtoto baba akasema, no, ninasikia sawa, ninachoka. Akaambia batoto, nyumu pande hapo muende kule kwetu, sababu angali mungu higaranti kidogo, bo mimi nitakamata moto. Bako kunyumba wako wanazungumza mama, banakutana baba, banamuleta, banamunyangula. Ine mushidikie devye deja, avec une asymétrie, avec une asymétrie des membres supérieurs et inférieurs. Kisha, ana mtu tena, hajui tena kusema. Baka mkimbiza kwanza kupita, na mpaka leo je vous dis, mtu angali, mpaka hivi, alitoka mwapitali ni hapa lonta, lakini alisha anakuwa kilema. Na benyeba alifanya voilà. Vile, iko Kinshasa, na wakati anamaliza vile, baku kwenyeba kwa wanauzisha vile, wanafanya vile, na kisha wanaenda, banaachia batu magumu. Jo nilipenda kusema papa Taisi akisante kwa leo kuambia population kama wawe makini. Huko watu ambao waliuzisha zamiri zao kwa shetani, wanazunguluka na zamiri zao habana tena, waliuzisha mzuri mzuri, bakamate franka na waweze kunani kurekolte pale kwenye hawakulima, lakini franka wazikamate vile, na kisha unaanza wende huko naangaika, ulishauzisha kwako na hauna tena kwako.
Voilà. Merci beaucoup. Nazani kama ya muhimu kuko kitu yenye mtu auzake kwa uficho. Parce qu'il y a certaines personnes qui se décident d'acheter des maisons, acheter des véhicules. Ce sont des patrimoines que l'on achète. Parfois, c'est pour toute la vie. On ne peut pas acheter une parcelle, on ne peut pas acheter une maison sans associer les chefs de l'avenue, sans associer les chefs de quartier, sans associer les voisins. Bon, mais ma mingi kosa bana wazaka kama ni ya wivu. Juu tunaanza sikia mu quartier, tunasikia se pale isha kuwa kwa pasteur Migabo, pale kuisha kuwa kwa Elia Bibu. Elia Bibu aliuzaka pale siko gani? Donc ça se fait de manière clandestine et maintenant quand il y a des problèmes de limite, c'est en ce moment-là que les voisins sont maintenant contactés et c'est maintenant que l'autorité est contactée alors que c'est nous-mêmes. Donc il faut faire vraiment très 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 attention. De même, quand on achète un véhicule, les gens qui achètent des véhicules, parfois on a osaka kikama, il n'a qu'à l'état chida par après, mais mutu mwingine kama unauliza wengine wanaweza kuambia bwana tuliona hii gari ya Oswalde iko kikama na mletea ka shida hii kama utauza uuze vile. Mais quand Oswalde vous vend le véhicule, il va vous montrer kama ni ngali ya mupya, ngali ya bien,
c'est qui est normal.
Donc il y a des choses que l'on ne peut pas acheter.
Ce n'est pas normal. C'est le coquerie.
Oui oui, il y a des choses que l'on ne peut pas acheter en cachette. Il faut vraiment se renseigner et nous allons remercier le pasteur Miga Bonyagaza qui est le coordonnateur de chef de quartier ville de Bukavu et qui est le chef de quartier Ndendere pour cette interpellation et cette sensibilisation. Bon, dommage que nous avons connu la mauvaise gouvernance, mais nous sommes en train de nous battre, nous tous, dans la ville de Bukavu, mais la ville de Bukavu devait être étendue vers le nord, peut-être le sud. Ça nous éviterait tous ces conflits que nous sommes en train d'observer dans la ville. Tout le monde voudrait vivre à Ibanda, tout le monde voudrait vivre à Kadutu, et pourtant il y a moyen d'aller à Kasha où il y a encore des espaces. Bon, voilà, espérons que nous allons y arriver. Merci pasteur Miguel.
Merci beaucoup Thaïs. Ninashukuru sana.
Merci.
Tutaingia mkanisa. Joma nitabachia gusudi muendeleshe. Vraiment votre courage nous rassure beaucoup.
D'accord.
Bonne continuité pour la journée.
Mimi naona bwana mea anaingia katika studio hii.
Na ninamsalimia pia.
Labda tutamsikiliza kwanza. Le maire de la ville est dans ce studio, il venait de faire son entrée dans ce studio. Bonjour monsieur le maire.
Bonjour doyen Thaïs et voilà. Bonjour à tous les amis qui sont sur la table, les anciens de nouveau. Et voilà. Bonjour à toute la population qui nous suit de partout, à Bukavu et dans les coins de la province du Sud.
Voilà, il s'appelle Nicolas Kialanga Liloa. Il venait de remplacer notre vieux qui est maintenant au gouvernorat de province. Il s'appelait Ladis Muganza Wakandwa, qui est maintenant au gouvernorat du Sud Kivu. Nicolas Kialanga Liloa, ce n'est pas un étranger, il est habitué de ses studios de radio Maendeleo, c'est un acteur, un ancien acteur de la société civile. Monsieur le maire, quelle nouvelle?
Bon, nous pensons que la situation se porte bien. La ville, elle va, nous allons vers une stabilité plus constante. Les travaux communautaires se passent très bien. Il y a un nouveau rythme, un nouveau souffle. Et cela nous réjouit et nous félicitons la population. Il y a beaucoup de projets, et ça j'aimerais qu'un jour on en parle ici. Il y a beaucoup d'initiatives communautaires pour rendre la ville propre et belle, qui souvent sont oubliées. Et nous avons eu la chance de faire des visites. J'étais d'abord hier au Port-Wécha. À Kanoche, la population s'est décidée de protéger un bien communautaire, un pont. Et nous, comme mairie, sous évidemment le leadership, l'accompagnement de la province, du gouverneur Patrick Bousouangui et de la hiérarchie du mouvement, nous avons aussi donné notre quote-part pour que cette population puisse préserver ces biens d'utilité publique. Donc vous voyez, ces types d'engagement jetés du côté de Rosizi 1er, 2 et 3, la population s'engage à faire des petits ponts, des petits escaliers,
sont en train de combattre les ténèbres en mettant des lumières. Et ça, c'est partout dans la ville. Moi, je sens qu'il y a un élan, un souci de développement que nous voulons encourager parce que notre approche, notre philosophie, c'est que on doit apprendre à se prendre en charge. Ça fait 62 ans qu'on attend que le Messie vienne. Le Messie, on ne l'a pas vu. Et à la fin, il faut comprendre que le Messie, c'est nous-mêmes. Et je crois que dans plusieurs endroits, c'est là qu'on se comprend. Et nous, donc, nous réjouissons de cela. Et il y a plusieurs autres mesures qui ont été prises par rapport à la circulation routière et ainsi de suite. Je pense qu'on aura le temps d'en parler. Concernant le sujet des parcelles, je pense qu'il faut que notre population décide. Est-ce que réellement nous voulons le changement? Est-ce que nous voulons le développement? Ou nous voulons rester dans les antivaleurs dans le temps? Et comme vous l'avez dit, pourquoi on cache? Il y a des services habilités pour vous dire cette parcelle est réellement celle de telle et ainsi de suite. Son Excellence Monsieur le Gouverneur a signé un arrêté il y a de cela, je crois, 6 ou 7 mois, interdisant des parcelles de 6 fois 7, mais on continue à voir des gens qui cherchent des parcelles de 6 fois 7. Et dans l'optique de cet arrêté, c'était évidemment ce que vous avez dit, c'est qu'il faut étendre la ville. Mais avant de l'étendre, il faut d'abord arrêter de l'émietter. Parce que si vous continuez à l'émietter, bon, personne ne va vouloir aller là où personne ne va. Le projet de Kachoucha existe déjà. Je pense qu'on a un projet du côté de Nyantende et peut-être aussi du côté de Mugogo, quelque chose viendra bientôt en collaboration avec le secteur privé pour permettre à toutes les bourses, à toutes les personnes finalement d'avoir où rester. Donc je m'adresse à la population pour dire écoutez, soyez vigilants. Ne vous laissez pas avoir. On vient d'entendre une histoire de quelqu'un qui a un AVC parce qu'il n'a pas été prudent, parce qu'il a voulu cacher ce qui ne devrait pas être caché. Je leur appelle aussi à dénoncer tous ces commissionnaires qui violent cet arrêté, tous ces commissionnaires qui font des doubles jeux. En tout cas, nos services s'en occuperont. C'est inacceptable que nous soyons là pour protéger la population. Et que ce n'est pas seulement la sécurité. Protéger la population, c'est aussi les protéger contre ces types d'escroqueries. Voilà, en bref, j'espère qu'on aura le temps d'en parler.
Tout à fait. Tout à fait. On a vu qu'il y a un projet de placer le marquage au sol sur l'avenue Patrice Emery Lumumba. Alors, comment évolue ce projet-là? On se rend compte que ça crée de la beauté sur la route. Ça permet également aux véhicules de circuler sans problème. Alors comment évolue ce projet-là?
Eh bien, le projet il avance très bien. Ce n'est pas seulement sur Patrice Emery Lumumba. Maintenant, nous sommes sur l'axe Mumba. Si vous allez du côté de Amani, le marquage se fait. Malheureusement, je dois le dire aussi, c'est que bon, il n'y a pas la population n'a pas le civisme routier. Et donc, les conducteurs ne comprennent pas qu'il ne faut pas marcher, il ne faut pas conduire sur les bandes. Il faut conduire dans l'espace des bandes. C'est de la peinture, ça s'use, ça se salit. Et donc, il faut la protéger. Mais je salue ici l'initiative parce que nous avons été financés par le gouvernement provincial pour ce projet-là, qui n'est que dans sa première phase. Il y a la phase des signalisations, il y a la phase où on mettra des feux rouges. Et puis bon, voilà, nous voulons embellir notre ville et ce n'est pas seulement sur le plan évidemment des signalisations routières. Nous voulons voir aussi des arbres plantés à gauche et à droite. J'étais en réunion récemment avec les responsables des galeries. Je lance l'appel aussi à tous ceux qui sont sur les grandes artères. Il y a un communiqué qui est passé, je crois, sur vos antennes aussi. Il faut peindre vos maisons, hein. On doit avoir une belle image de la ville. Il faut pas attendre que l'État vienne peindre vos maisons. Il faut paver devant vos maisons. C'est pas l'État qui va venir paver devant vos maisons. Il y a eu des polémiques sur les questions des parkings. Mais si vous décidez de construire votre maison juste, en laissant, d'abord il y a même des maisons où on ne laisse pas l'espace aux piétons de passer. Et nous on dit non, il faut laisser l'espace des piétons. Non, vous avez le choix. Vous pouvez construire jusque à l'espace des piétons. Mais alors acceptez aussi que les véhicules ne garent pas devant chez vous parce que c'est la chaussée. Créez des parkings devant vos maisons. Plantez des arbres. Parce que Bukavu, vous vous souviendrez, c'était une ville avec des arbres. Vous pourriez quitter la frontière jusqu'à la Beauté et dans d'autres endroits, même sous la pluie, mais les arbres vous protégeaient. Aujourd'hui, les arbres ont disparu. Cette culture n'est pas là.
et nous disons replanter les arbres, paver, comme ça on peut faire le tour de Bukavu sans se salir, il n'y a pas de boue. Et c'est possible si chacun fait son devoir. Nous avons lancé cela dans le cadre de la sécurité routière, comme on l'a dit, et ça commence par le marquage. J'en appelle à la population. On est traversé que là où il y a la traversée des piétons. On voit des gens traverser la route n'importe comment. Non, il y a des grosses bandes blanches le long de la route. C'est là uniquement où vous pouvez traverser. Et à cet endroit-là, tout chauffeur doit s'arrêter pour vous laisser la place de traverser. Il y a aussi des chauffeurs qui ne savent pas que la bande jaune sur la route, ça veut dire que vous ne pouvez plus aller de l'autre côté. C'est comme si c'est deux routes séparées. Mais vous les voyez qui marchent sur la bande et ainsi de suite.
À gauche, à droite.
À gauche, à droite. Les taxis, ceux qui sont dans le transport, vous ne pouvez pas marcher dans la deuxième bande. Marchez dans la première bande parce que ça vous rapproche de ce que vous allez, des personnes que vous allez récupérer. Et laissez l'autre bande pour ceux qui, eux, sont un peu plus pressés, qui ne vont pas s'arrêter. Et puis, il y a des endroits où, par exemple, à Niawera, on s'arrête comme on veut. Non. L'espace Niawera, ce n'est pas un espace ni de, vous ne déposez personne, vous ne prenez personne. On a créé un parking, bon, du moins un endroit d'arrêt au-delà de chez les marrons là-bas, Vision Chala. Là, vous pouvez déposer quelqu'un ou le prendre au niveau de la mosquée et Pindor, vous pouvez déposer quelqu'un le prendre et éviter cet embouteillage qu'on voit autour de Niawera. Donc tout ça, on le fait pour sécuriser nos populations. Tout ça, on le fait pour que sur la route, il y ait plus de sécurité. Nous avons demandé aussi aux taximens d'afficher les prix dans les taxis, visiblement. D'afficher aussi, ils appartiennent à quelle association. Parce qu'on voit des taximens indépendants. Bon, maintenant, comment on s'est régulé? Qu'ils aillent se faire adhérer. Il y a plusieurs associations, je crois, Prodico, Otco, Aseco, qui se fassent adhérer là-bas, qu'ils affichent. Comme ça, le client est en sécurité. Il entre dans un taxi, il sait, c'est un taxi qui est affilié à l'Aseco, numéro tel, et le prix est affiché. Il n'y a pas de discussion. Voilà. Et nous voulons donc créer cette sécurité sur la chaussée, mais aussi pour les personnes qui entrent dans les taxis. Parce que bon, vous pouvez perdre votre téléphone, vous perdez votre sac en main, vous allez aller le chercher où? Mais voilà. Quand vous savez que c'est un taxi affilié à Otco, numéro 25, vous savez aller chez Otco et vous dites, j'étais dans le taxi numéro 25 de chez vous et j'ai perdu mon téléphone dedans. Donc ça nous permet de réguler. Laissez-moi aussi dire, le taximène, le motard, le badjadiste, c'est un travail que nous voulons honorer, que nous voulons honorable. Mais on les voit en babouche, on les voit en cinglé, mal coiffé. Bon, écoutez, mais nous avons dit, allez vous faire enregistrer aux associations et que les associations régulent. Nous voulons que les gens travaillent, nous voulons que les gens gagnent leur pain, qu'ils soient capables de nourrir leur famille, mais de manière honorable. Nous avons lancé une campagne d'identification des motards. On sent une résistance. Moi, je me pose la question, pourquoi on résiste? Parce qu'il faut que nous sécurisions la population. J'en appelle à la population, ne montez pas sur une moto qui n'est pas identifiée. C'est pour votre sécurité. Parce que bon, demain, on va vous kidnapper ici. Et on reçoit tous les jours des gens qui disparaissent. Oh, il y a une moto qui l'a pris. On ne sait pas, il est parti où. Bon, on vient chez nous, les autorités. Mais nous, on va commencer à chercher où.
Voilà.
C'est bien de dire, on l'a vu monter sur moto numéro tel. Ça nous permet de savoir où on cherche. Parce qu'ils sont identifiés chez nous, ils sont identifiés là où ils ont acheté leur moto. Nous voulons aussi voir des badjadistes enregistrés. Ça nous permet aussi de protéger nos populations. Donc, nous demandons à la population aussi de coopérer, de ne pas se laisser manipuler, mais de coopérer, de nous aider dans ce processus, de les sécuriser. Pas seulement sur le plan des voleurs, mais aussi sur la route, et qu'il y ait de la sécurité dans ce domaine-là. Voilà.
D'accord, merci. Avant que je ne pose la dernière question, au sol de Mouemer et Roubacha, vous êtes de la société civile, vous êtes en face de votre ancien collègue Nicolas Kalangalilo. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà vu depuis qu'il a rejoint la révolution. Vous pouvez lui dire quand même bonjour.
Moi, je lui ai dit, tu as vu quand il est entré, je suis mis debout pour le saluer.
Tout à fait.
Avec respect.
Oui.
Non, moi, c'est une très bonne nouvelle pour moi de voir notre collègue devenir maire de la ville. Moi, je le félicite sincèrement. Il a pris ses engagements en toute responsabilité, c'est normal, c'est légitime. Il n'a violé aucune loi de la République. Voilà. On était ensemble, quand il est parti, quand il nous a quittés, il a quitté officiellement pour LGD, si je ne me trompe pas.
Oui.
Voilà. Il nous a quittés officiellement en bonne et due forme. Et c'était conforme à nos textes. Et donc, il mérite notre accompagnement. Bien sûr, il a fait un choix. Le choix aujourd'hui est discutable. C'est pas, son choix est discutable, mais c'est légitime. C'est un choix, mais légitime. Voilà. Je voulais plutôt, dans tous les commentaires, il y a un seul point qui m'a arrêté, qui a attiré mon attention. Le directeur, vous l'avez répété, le maire de la ville l'a répété. Étendre la ville de Bukavu. Moi, je pose souvent la question, qu'est-ce qui fait étendre la ville de Bukavu? Je comprends pour Goma. Facilement, on peut étendre la ville de Goma. C'est une ville bien administrée. En termes de propriété, en termes d'infrastructures, tout ça. Mais est-ce qu'il faut étendre le désordre de Bukavu en dehors de Bukavu? Moi, je pense plutôt qu'il faut réfléchir en termes de viabiliser les zones rurales. Le décret qui avait créé les nouvelles communes rurales devait plus être appliqué. De manière à ce qu'il y ait des nouvelles entités qui vont permettre à ce que les gens restent là où ils sont et que l'État investisse dans ces entités-là. Que d'étendre une ville déjà qui pose problème d'administration. Où une population ne respecte pas les autorités, les autorités, ne passent pas. Donc, Bukavu, c'est une ville compliquée, très compliquée. La population de Bukavu est fortement politisée, très fortement politisée. Ça fait qu'elle a géré, c'est pas facile. J'étais à la connaissance de la société civile, j'en connais suffisamment. C'est un peu ça. Voilà, un petit commentaire, je voulais
voilà.
Faire.
Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. C'est aussi une occasion de vous encourager, monsieur le maire, mais également le gouverneur de province, et vous souvent oui, parce que vous nous autorisez quand même de parler. Hein, quand nous vous appelons, vous décrochez. Parce qu'il y a d'autres autorités qui ne décrochent jamais. Le gouverneur Boussou Bangui, quand vous l'appelez, il décroche. Il prend les téléphones, vous causez. Vous pouvez, si vous avez une préoccupation, également le maire ici. Bon, c'est un bon signe. J'espère que ça ne va pas changer. Et même si nous sommes dans une situation de guerre, hein, de révolution, il y a certaines restrictions. Mais vous prenez quand même le téléphone. Vous vous exprimez, et c'est pourquoi vous êtes venu d'ailleurs au studio de Radio Mandeléo. Je suppose que vous voulez que les gens puissent vous écouter également, que les gens puissent poser des questions. C'est un très bon signe pour l'avenir. Mais ma question, oui.
J'aimerais commenter à cela. Si nous avons pris les décisions que nous avons prises, comprises ou incomprises, que nous assumons, c'est parce que nous pensons qu'il y a un plus que nous voulons amener. Le gouverneur Patrice Boussou Bangui nous a donné, évidemment sous directive de la hiérarchie, cette mission de conduire aux destinées de la ville pendant un temps, parce qu'il fallait une gouvernance de proximité. Donc ce serait à l'encontre de nos valeurs de ne pas prendre des téléphones, même de n'importe quel citoyen lambda. Vous avez peut-être noté que les deux week-ends qui viennent de se passer, nous avons demandé, le chef de quartier peut vous dire ça, pour ne pas dire instruit, à tous les chefs de quartier, tous les chefs d'avenue, d'organiser des forums populaires dans leur quartier, pour que la population s'exprime, pour que nous soyons saisis des problèmes de la population, pour qu'il y ait des cadres où la population converse, parle avec ses dirigeants. Évidemment, nous, on ne peut pas être partout. Mais eux, ils sont là, ils vont écouter, ils vont faire remonter ces problèmes et nous allons chercher des solutions. Parce que c'est en fait ça le problème. Le problème qui a toujours été, c'est que la population a des problèmes, mais les autorités sont très éloignées. Et nous, nous disons, nous voulons une gouvernance de proximité. C'est une des raisons de ce combat. C'est une raison de cette réalité. C'est-à-dire, il faut que les problèmes soient résolus. Il faut que les problèmes de la population soient résolus. Il y a beaucoup de bureaucratie, il y a à un moment on se demandait même que ceux qui gouvernent, est-ce qu'ils gouvernent pour le peuple ou est-ce que nous sommes encore dans le mode colonial d'exploitation du peuple. Et à ce moment, c'est vrai, c'est une situation particulière qui a ses exigences, mais dans cette situation particulière, nous voulons créer ces formes d'expression populaire pour que la population sente qu'elle est au centre, que l'homme est au centre de notre combat et que nous sommes là, dans la mesure du possible, de résoudre un certain nombre de ces problèmes. Donc voilà, c'est une philosophie, c'est une valeur qui nous guide
Et je voulais juste clarifier cela.
D'accord.
Et pour vous rassurer que ça ne va pas s'arrêter, eh bien, bien au contraire, nous venons encore de recréer des systèmes où ces types de forums existeront régulièrement. Déjà, chaque samedi, dans chaque quartier, les populations se retrouveront avec leurs responsables pour s'exprimer. Évidemment, les responsables vont aussi donner un certain nombre de messages et de consignes, mais ils vont aussi exprimer leurs besoins, leurs problèmes, et nous allons chercher des solutions.
D'accord. Là où nous pouvons le faire. Mais un bémol, monsieur le maire, oui, avant que vous ne posiez la question, ce sont des cris que nous sommes en train de recevoir. Je crois avoir appelé hier Elie Habibou, j'ai même appelé le gouverneur de province, parce que moi-même j'étais dérangé, parce que les gens nous appellent et pensent que nous sommes à mesure de trouver des solutions au problème, mais nous sommes comme journalistes obligés de vous appeler. Ce sont certaines personnes ou personnalités qui sont à Kinshasa ou qui ont quitté la ville de Bukavu, qui disent que on est en train d'occuper illégalement leur maison, on fait déguerpir de familles. Il y a des véhicules qui sont ravis dans des clôtures des gens. Bakiyo kama kwa Albert Nyagaza kuko Mtugari, Mulupango, Banakuya Banaibeba. Bon, ce sont des personnes, en tout cas, non identifiées. Mais ça se passe dans la ville de Bukavu. Je ne sais pas si vous êtes au courant, monsieur le maire. Hier, en tout cas, j'ai appelé le gouverneur pour lui parler d'un cas. Mais les cas sont nombreux dans la ville de Bukavu et il y a des cris de détresse. Les gens se disent, bon, donc, garisez, tu nyumbazez, tu zenyez, tu liachaka Bukavu, à tout à wezakatena, parce que ce sont des propriétés privées. Bon, on peut se décider de laisser son vécu dans la clôture. On est ici à Kohema, en attendant que peut-être, walolupata ingine, on peut laisser sa maison, ou on peut la faire loger. Mais on constate qu'il y a des personnes qui sont armées parfois, qui viennent pour occuper la maison. Ça se passe dans la commune du Banda surtout.
En tout cas, je ne suis pas encore saisi. Évidemment, vous avez parlé aux camarades de gouverneur de province. Vous-même, vous ne m'avez pas parlé, donc je ne suis pas saisi. Tout ce que je peux dire, c'est que il y a beaucoup de désinformation. Beaucoup de désinformation. Et c'est typique à Bukavu. Hein. À Bukavu, les rumeurs circulent et les gens mal intentionnés font faire circuler des mauvaises nouvelles. S'il y a des véhicules qui ont été pris, c'est en partie aussi pour protéger. Parce que les gens, ils pensent que nous sommes là pour ravir les choses de ceux qui sont évidemment de l'autre côté à Kinshasa et qui peut-être ne sont pas avec nous. Et ils en profitent. Il y a toute une mafia, il y a certains qui ont même déjà été arrêtés, qui profitent de cette cacophonie pour voler à qui ceci ou à cela et mettre ça sur le dos du mouvement. Et il y en a qui ont été appréhendés et on s'en est occupé. Donc, je ne saurais pas me prononcer parce que je ne suis pas saisi du cas, mais je dis qu'en général, beaucoup de cette histoire, c'est des gens qui veulent, à partir de Kinshasa, nourrir cette image de victimisation. Nous sommes un mouvement révolutionnaire. Nous sommes des Congolais. Nous nous battons pour les Congolais. Donc il n'y a aucune raison, simplement parce que les gens ont des divergences d'opinion, que certains soient maltraités. D'ailleurs, une des causes profondes ayant conduit à cette situation, c'est cette marginalisation. C'est qu'il y a quand même des Congolais qui ont été marginalisés pendant des années et traités comme des sous-Congolais, pour ne pas dire des non-Congolais. Alors, est-ce que nous allons encore revenir et faire la même chose pour certains uniquement à cause de leur appartenance politique? Je crois que ce serait faire une chose de son contraire. Donc, l'idée, c'est de dire à tout le monde, évidemment, d'une manière régulière, vous êtes libre de penser ce que vous voulez, mais voilà la conduite, nous protégeons tout le monde. Ils sont ici dans la ville, nous les connaissons, des gens qui font des messages contre nous. Mais est-ce qu'on les a saisis? Est-ce qu'il y en a, vous avez entendu, qui sont arrêtés? Est-ce que les jouent sur WhatsApp, ils nous injurient et tout le reste? Ils font même des fake news. Est-ce que vous en avez vu qu'on a arrêté? Non, on les laisse parce que bon, évidemment, chacun a son droit et peut-être, vous avez, il y a beaucoup qui sont des Thomas. Mais quand ils verront les choses changer, alors à ce moment-là, nous espérons qu'ils seront convertis. Et c'est ce que nous voulons.
D'accord, merci. Nous allons terminer.
Oui, je voulais juste féliciter M. le maire. Hein. J'ai senti qu'il engage suffisamment beaucoup d'énergie, qu'il a plus acquis de la société civile pour aller davantage dans la proximité. Moi, je voulais faire plutôt un plaidoyer en faveur des cadres de base. Je sens que vous voulez responsabiliser davantage. Mais il serait quand même intéressant d'instruire au bourgmestre de voir comment quand même soutenir ces gens-là. J'ai eu plusieurs places ces derniers temps, invité chaque fois chez le gouverneur, tous les cas de base, mais avant la fin des transports. Ça pose un problème.
Avant la communication.
Ah, bonjour comme la population à la base. Donc, s'il y a moyen quand même de faire quelque chose à leur faveur, ça serait intéressant. Mais aussi par rapport aux véhicules. Nous, on a quand même les cas d'autres véhicules en société civile qui étaient gardés chez l'État de la justice. C'est un véhicule que nous avons obtenu dans le cadre de partenariat avec le SAID. Mais ce véhicule est parti dernièrement, bon, je ne sais pas, ces autorités ont été saisies par l'État de la justice.
Puisque vous parlez d'héritier de la justice, écoutez, nous, nous avons cherché une collaboration franche avec la société civile. Moi, je ne veux pas aller en détail, mais je crois que tout le monde lit les réseaux. Et le problème, c'est peut-être chez vous. En tout cas, nous, nous avons dit, nous voulons collaborer. Je me retiens d'aller dans les détails.
D'accord.
Merci. J'ai été saisi personnellement. Je revenais de Goma, en plein bateau, j'ai été saisi par héritier de la justice. Nous avons demandé au service de suivre. Il n'y avait que deux témoins. Le chauffeur et le gardien. On les a interpellés. Mais en trois jours, héritier de la justice vient nous dire que les familles veulent reprendre leurs gens. J'ai dit, bon, maintenant vous voulez qu'on continue l'enquête comment? J'ai dit, bon, c'est bon, reprenez vos gens, mais comprenez alors que nous aurons du mal à continuer l'enquête. Après, on vient nous demander d'enquêter. On va enquêter comment? Il n'y avait que deux personnes qui ont vu les personnes qui ont pris les véhicules. Mais après, on vient nous redire, oh non, les familles demandent les gens. Alors que l'enquête est en cours. Bon, nous avons remis les gens pour éviter des problèmes. Donc, vous comprenez, si nous voulons continuer à collaborer, il faut aussi nous permettre de faire ce que nous devons faire. Bon, maintenant, la nouvelle est partie, le véhicule est parti, tout ça. Mais personne ne veut dire qu'on est venu prendre les deux seules personnes qui avaient vu l'incident. Les deux seules. Et on nous a dit, oh, les familles veulent les voir. Bon, si on les garde, voilà. Oh non, Moulefunga va tuer tout. Si on ne les garde pas, on est coincé. On n'est pas des dieux.
Merci.
Ouais. Pour les cadres de base, les chefs de quartier qui est ici, on ne va pas aller en détail, nous sommes les premiers qui avons quand même pensé à quelque chose pour eux. Mais c'est progressif. Nous sommes dans une situation particulière et vous savez, les besoins qui sont les nôtres. La guerre, elle est devenue multiforme avec ses réalités. Mais les peu que nous avons, en tout cas à ce moment, nous avons une catégorie qui est encadré, et l'idée c'est de descendre jusque même aux 10 maisons parce que nous voulons aller jusqu'aux 10 maisons pour sécuriser nos populations. Mais comprenez que c'est un processus pour trouver des ressources pendant qu'il y a aussi d'autres défis de développement, ainsi de suite. Mais le processus est en cours.
D'accord, nous allons terminer cette rubrique. Nous ne voulons pas faire un jeu de ping-pong avec l'autorité, mais prière, s'il vous plaît, enquêtez sur cette question d'occupation illégale de maisons de particuliers. Peut-être c'est en guise de réciprocité avec ce qui se passe à Kinshasa, parce que nous avons appris qu'à Kinshasa, ça s'est fait, c'est la même chose. En tout cas, certains notables, certaines personnes nous ont affirmé que leurs maisons sont occupées illégalement par certaines personnes. Les maisons sont ravies et même certains véhicules. Prière, s'il vous plaît, vérifiez ces allégations que nous ne confirmons pas ici. Mais bon, nous avons vraiment en tout cas été saisis. Mais parfois on a peur aussi, monsieur le maire. Ne pensez pas que, bon, c'est chaque personne qui peut accepter venir témoigner, surtout pour des cas qui parfois concernent des personnes armées, de peur de ne pas se créer des problèmes dans la vie. Bon, on donne l'information comme ça, en tout cas c'est à vous, comme autorité, de pouvoir vérifier. Et notre souci, ce n'est pas vraiment de créer un bras de fer, mais de vous flasher, de vous donner cette information-là. Ça s'est dit, ça se chante, et ça peut vraiment ternir l'image du mouvement, alors que nous sommes déjà dans les bancs, dans l'élan du Salongo qui s'est fait, la propriété. Je vous ai parlé également de ces marquages au sol Parfois, les gens qui sont à Kinshasa, quand ils voient, ils disent « Ah, voilà, il y a quelque chose qui s'est fait à Bukavu. » Élie, on va terminer. En tout cas, on veut prendre la partie principale de cette émission.
Bon, en fait, vous savez, j'ai suivi les messieurs les maires de la ville, les chefs de quartier. Et là, je vais répondre comme conseiller en charge de l'administration. Dans des semaines qui soient élus. Chasser ma population civile tout j'y sais mais à qu'on a si parce que si c'est comme ma vie on gose tu n'as pas choix que geuse la tabia zetu mbele tabia ya non ya population geuke si si tu n'as pas choix que geuse la tabia yetu comme au chef d'avenir comme au chef wa nyumba 10 comme au chef de quartier on n'a pas choix de sentir comme responsable mbele ku tafuta population est plus responsable ku fasi yako na nyinyi kama viongozi wa chini inabidi naweza kuna kwa meya wa mupya. Na mewa mupia inafaa anaweza kubachunguza nyinyi wote kuanzia kwa chini mpaka kunivu yake yenyewe afikia kwa burgomestre mpaka nani. Nikusema kama vitu ya maviwanja, kama vitu ya manyumba, kama vitu ya mali nafika kisha nyinyi mripoti. Nikusema kosa sio tena ya raia. Mnifuata? Kosa ni ya kwenu nyinyi viongozi. Kwani mkishakuwa viongozi nikusema unapaswa kuwa na akili, unapaswa kuwa na ujuzi, unapaswa kuwa na nguvu zote zenyewe zinakustahili ili uweze kuongoza raia. Sio raia ndio atakuongoza wewe. Tunasikizana mzuri. Ni kusema naweza tunakuwa na mea wa mpya na kuwa na ile akili. Apatie nyinyi wote kumustari bila vile awabadilisha. Kwa kuna kuwa wa chef d'avenir wenye wanatembea vibaya sana. Baka mafujo naanza tokia kwa chef d'avenir kuna antikia guverner. Unashindwa hata kuandikia mea nani chef de quartier wako. Unashindwa kuandikia chef nani bourgmestre. Unashindwa kuandikia mea d'avenir. Mubiru wangu mwana mabarua ya we chef d'avenir kuandikia gouverneur cha vrai atumie conseil cha na mimi nivutishe tuna kuchini hapana. Kama hauko kiongozi mwenye akamilika inabidi utoke sivile, kwani raia haiko ndio tutakuwa tunafanyia kwa ombi kila siku. Raia tunaresponsabilize raia, japokuwa nyinyi tumewapa madaraka ili muweze kuongoza raia, hapana raia kuwaongoza nyinyi. Naweza kwetu chama revolution kusema wewe bakikupatia madaraka inabidi uassume en bonne et due forme. Na kama utaweza kuyasume, maana usiseme kama wewe ni chama, wewe ni chama. Na ile kwa inapelekea shida kwa kama pia kwenu. Jana mimi nilikuwa kusalongo, mimi nakutana chef d'avenir, moi yeye alipisha kama makuta kusalongo. Uko chef d'avenir, unalipisha kama makuta kusalongo, asema wewe ukufa salongo. Lipa kama 5000 francs. Wewe ukufa salongo. Nikusema kuko bitu mingi yenye ba chef d'avenir habaya tia mbicho yabo. Habaya kama revolution haiwezi kuwa bila population. Haiwezi kuwa bila population, ile population iko encadrée par nyewe tunaita ba cadre de base. Haiko njia ya kwanza tunabarinile kunani kotorium de la femme tunapatia namna ya kutembea, lakini inaonekana kama ba mingi kati yenu bangali mwazide tabia za zamani. Na njia wana tunasema gizi mea wa mpya iko hapa. Mna isema mbele yake. Inabidi abavutie kumustari, abachunguze vizuri na mwenye apende kuingia kumustari. Aweze kukamata mitindo yenye inastahili ili aweze kubagomboa. Ile ingine ya kusema manyumba za batu ile naoni shida. Na yeye kusema sisi viongozi inabidi tunaifuatilia, tunajingia ndani na tunajua ni nani mwenye iko anafanya ile. Kwani tuna protéger droits humains, si vile? Kama tuna protéger droits humains, ça veut dire que droit de propriété ni kitu ya mtu. Kama ni kitu ya mtu, tunabidi tunaiheshimia. Kama vile tunapasha kujiheshimia sisi wenyewe. Ila sasa vile mea mmoja anasema kuko wengine wanaanza kujivictimize. Mimi na kama sasa vile jana uliweza kunita ile ni kaa yenye iko réel. Yenye mimi naweza penda bakubwa yetu iko ya kijeshi, iko ya civil baweze kuifuatilia. Kwani hatuna lazima kuingia mfujo na huyu au huyu, tuko lazima prison ya cohésion sociale. Tuko na lazima ya unité surtout ku sisi wa ndugu wa Sud Kivu.
Asante sana. Vous avez suivi Elie Abibu anongea kama kada kabisa wakati anazungumza monsieur le maire.
Je vais ajouter hein, le chef de quartier Lender, il sait. Moi je les ai déjà réunis je crois 4 ou 5 fois et j'étais très clair. Je continue mes itinérances pour parler jusqu'au chef d'avenue. C'est un principe de sacrifice. Dans notre organisation de Chama, une des grandes valeurs, c'est le sacrifice. L'autre, la détermination. Ce travail, on ne le fait pas parce qu'il rapporte des millions. On le fait parce qu'on est conscient que notre pays a des défis, que notre ville a des défis, et qu'il demande un sacrifice. Alors,
j'ai dit à tous les cadres de base, ceux qui ne sont pas prêts à se sacrifier, qu'ils viennent nous dire, comme ça on va les laisser tranquilles. Nous, nous ne sommes pas là pour changer les gens. Non, on veut travailler avec ceux qui sont prêts à prendre des sacrifices. Qui sont engagés. Oui. Nous ne voulons pas des cadres de base qui, Kaziabo, Kounyanya, sa population. Bali, Manga, Mouchanga, pa, Anda, Koukou, Soumboa, Moutou. Bali, Fungula, Kachantier, Anda, Soumboa, Moutou. Eh bien, c'est à Tupendi. Et je leur ai dit que la sanction, elle est sur la table. Nous sommes dans la phase de pédagogie. Mais ceux qui seront surpris, hier déjà quelqu'un, le chef de quartier, là je lui ai envoyé un message, il y a quelqu'un qui a nuitamment installé une sorte de kiosque quelque part, dans la nuit. Je lui ai demandé de suivre ce monsieur de cette avenue et de sanctionner. Il est là, il peut le témoigner. Donc là maintenant, il n'y a plus de blague. Parce qu'il s'agit ici de la vie de nos populations. Il s'agit ici de la sécurité de nos populations. Alors si vous, vous êtes un affairiste, allez faire des affaires, ce n'est pas un problème. Si vous avez des problèmes de conscience dans notre lutte, c'est de votre droit. Mais laissez que ceux qui veulent servir avec un grand sacrifice le fassent. En tout cas, nous n'hésiterons pas et nous invitons la population. Nous n'hésiterons pas à remplacer les chefs d'avenue, les chefs de quartier ou les Nyumbakoumi qui ne seront pas là au service de la population. Je remercie. Il y en a beaucoup qui font beaucoup. En tout cas, ces gens-là, ils se donnent à fond. Beaucoup. Il y a d'autres qui sont des paresseux. Et il y a d'autres avenues où j'ai appris qu'il n'y a pas de Nyumbakoumi, il n'y a pas de chef d'avenue. J'en appelle à ceux qui sont de volonté à venir. Parce que nous voulons que notre ville soit sécurisée sur tous les plans. Nous voulons qu'elle soit aussi développée sur tous les plans. Et donc, je voulais juste ajouter cet élément pour dire, ce n'est pas parce que simplement je suis nouveau maire de la ville, mais c'est des principes directeurs du Tchama, et c'est des principes. Eh bien, je sais que je vais appeler le doyen Oswald n'irait pas à l'encontre de cela parce que ce sont des principes pour lesquels nous avons milité depuis longtemps. Qu'il y ait une gouvernance de proximité, une gouvernance à la base pour l'intérêt de nos populations.
Merci beaucoup, monsieur le maire. Nous allons vous garder pour un petit moment parce que nous allons parler également de ces conflits dans le Golfe sur. L'économie de la province du Sud Kivu, cette question du carburant, comment on se comporte. Vous l'avez donc entendu, chers auditeurs, le président des États-Unis, Donald Trump, mène une guerre en Iran appelée Troisième Guerre du Golfe. C'est un conflit qui débute cette année, le 28 février 2026, bien sûr qui datait de longtemps, mais qui a ressuscité avec une opération militaire conjointe entre les Américains et les Israéliens. Il y avait des frappes aériennes contre l'Iran et ça dégénère aujourd'hui. Et comme vous le savez, notre pays, notre province, nous sommes approvisionnés par ces pays du Golfe. Également, vous l'avez entendu, il y a des immigrants expulsés des États-Unis d'Amérique qui seront amenés ici, si pas, et je crois qu'ils ont commencé à être amenés ici, puisqu'on cherchait là où le mettre. C'est encore une politique du président des États-Unis, Donald Trump, la société civile dans sa diversité qui monte au créneau et qui dénonce ce projet du gouvernement congolais qui vise à accueillir sur le sol congolais des immigrants expulsés. On se demande si c'est seulement au Congo, on pouvait amener ces gens. Nous allons faire des analyses d'abord sur la politique du président américain Donald Trump, parce qu'on l'a vu, en tout cas, dès l'entrée au pouvoir, on se rend compte qu'il prend des mesures impopulaires, mais enfin, nous allons parler des conséquences, justement, de cette guerre qui est en train d'être menée en Iran, sur l'économie de la province et également de la RDC. Nous accueillons ici Désiré Kakuma, qui est un confrère journaliste. Bonjour Désiré.
Bonjour Thaïs.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes toujours avec Elia Bibou. Nous sommes avec Bossingisi Jean-Pierre, qui est un opérateur économique, également avec Oswald Rubacha. D'abord, cette politique du président américain Donald Trump, je ne sais pas, Désiré, je vous donne la parole en premier. Quelle analyse vous faites? Vous suivez l'actualité depuis que Donald Trump est au pouvoir. Comment vous trouvez sa politique?
Bon, merci pour la parole, Thaïs. Nous avons tous été témoins de l'accession de M. Trump à la deuxième fois qu'il a accédé à la Maison Blanche. Et il n'a pas caché ses couleurs lorsqu'il a déclaré que, vous savez, ce qui consiste en fait son slogan politique, c'est de « Make America Great Again ». Donc redonner à l'Amérique sa puissance, sa force d'antan, sa grandeur, tout ça. Et dans cette politique, le président Trump, voulant effectivement redonner cette grandeur, il est dans l'excès, dans quelque chose d'excès, dans la essayer un peu de, selon lui, de marquer la différence avec ceux qui l'ont précédé. C'est pour cette raison que ses prédécesseurs avaient pris la précaution de ne pas aller jusqu'à la confrontation directe avec l'Iran. Mais c'est que dans son souci de Make America Great Again, il a jugé bon avec les Israéliens de frapper. Mais il y a une erreur qui a été commise. L'erreur, c'est laquelle? L'erreur, c'est que dans la conception, dans la préparation des opérations, les Américains, les Israéliens ont commis l'erreur de croire que le régime iranien était calqué sous un modèle pyramidal. Cela signifie que s'ils parvenaient à décapiter la tête, les restes s'effondreraient comme un château de paille. C'était ça la conception. Et vous allez voir que la direction même des opérations, c'était de décapiter les têtes. Mais non, ils ont fait face à un système de commandement mosaïque. C'est-à-dire, vous tuez le premier, il y a un deuxième qui apparaît, et un troisième est en préparation, et ainsi de suite. Et tout le monde est au courant du modus operandi national. C'est un peu ça qui a fait le problème, au point que, dès les 30e jour des opérations, l'Amérique commençait à faire sortir des signes de faiblesse, des signes de fatigue. Parce qu'en tout cas, les opérations coûtaient au trésor américain environ 2 milliards de dollars par jour. Eh bien, ça devenait un petit peu irrespirable de supporter. C'est dans ce cadre-là que le président Trump va commencer à chercher une piste de sortie. Comment en sortir? Il a commencé par manœuvrer pour avoir un trophée à présenter. C'est comme ça qu'il va dire, non, écoutez, nous allons ouvrir le détroit d'Hormuz. Et les Iraniens disent, pas question, nous allons miner. Et ce qui avait été fait selon certains spécialistes. Ils cherchent le deuxième trophée. Ah, comment on va négocier? Quand les Iraniens ont accepté qu'il fallait négocier, alors, c'est la piste, les opérations se terminent. Peut-être qu'il va reprendre, mais plusieurs analystes disent que ça sera un peu compliqué. C'est l'essoufflement, parce que la guerre, elle coûte trop cher face à un Iran qui a la technologie des missiles balistiques, qui a le drone. Face au drone, l'Amérique présente les missiles Tomahawk, un modèle de 2 millions de dollars. L'Iran vous bombarde avec un drone de 25 000, avec presque le même dégât. Et donc, c'est un peu ça. Lorsqu'il a vu qu'il allait droit contre le mur, il a dit non, cherchons une pirouette, cherchons une piste de sortie pour éviter aussi une sorte d'humiliation à l'Amérique. Donc, cette politique, nous allons peut-être dans la suite des débats, montrer que, même aussi sur le plan économique, Ça devient irrespirable. Tenez, lorsque vous créez une guerre dans la péninsule arabique et le golfe persique, qu'est-ce que vous faites au monde? Ce sont les 8 pays qui produisent 30% du pétrole consommé dans le monde. C'est 25 millions de barils par jour. Les 8 pays sont lesquels? Il y a l'Arabie Saoudite, il y a Oman, il y a les Émirats Arabes Unis, il y a le Qatar, le Bahreïn, l'Iran et l'Irak. Lorsque si vous déstabilisez ce coin, c'est tout le monde entier qui va souffrir. Parce que, avec le premier producteur mondial, qui sont les États-Unis, qui a à lui seul 16% de la production mondiale, lorsque vous enlevez les 25%, le pourcentage, les 30% des pays du Golfe, mais le monde va souffrir. Le monde va souffrir. Parce que les autres producteurs ne pèsent pas dans la balance. Les autres ne pèsent pas, l'Afrique notamment. Hein? Alors, c'est pour cette raison que les conséquences n'ont pas tardé à se faire voir dans beaucoup de pays au monde, partout au monde. Nous avons suivi quelque chose qui m'a fait rire un peu en Tanzanie, Mme Suluhu Hassan, qui achète un bus pour que tout le monde membre de son cortège. Plus question d'Égypte, parce que le carburant coûte cher. Moi, j'étais... C'est innovant quand même.
Voilà. Merci beaucoup, Elie Habibou, tout en étant au cabinet du gouverneur de province, en qualité de politologue. Vous suivez de loin ce qui se passe au niveau de l'Iran. Cette guerre pilotée par des Américains, les Israéliens contre l'Iran. Mais les gens s'étonnent de voir que les Américains peuvent quitter leur pays pour aller mener la guerre à plusieurs kilomètres dans un autre continent. Hein? Ça étonne un tout petit peu.
Oui, ça doit étonner. Mais on a fait ma quantité de qui soit éliminé. Il n'a pas cherché à Kushangaza. Alors, il y a un cas où il n'y a pas de mythe. Il y a des Américains qui ont dit qu'il y a des gens qui ont été décédés. Les Américains ont été pigés. Hein? On comprend. Donc, le mythe de la puissance mondiale, il est puissance mille Zakabam, si vous êtes comme vite. Il est Russie, il est États-Unis. Si vous êtes comme vite, vous êtes comme ça, ça ne s'appelle pas agression. Civile. Il est avec agression. Et pourtant, en droit international, c'est vraiment une agression pure et simple. Mais alors, ma répercussion, la puissance réside dans la force, alors que la puissance réside dans la tactique et technique des combats. Nous avons un armement yote à Dunia. Nous avons un piga bon moukoumi. À la kini, quand on a besoin, nous avons un vita moukichu. Namuro, je vais gagner des œufs à qui on m'a dit. C'est pas la tête, je vais faire un kichu à moi, mais je vais faire une cause profonde. Je vais faire une cause résister tout, je vais faire une cause à couper. Je vais faire Iran, Indonésie, États-Unis. En dépit à force, tu vois comment l'armée américaine n'a ni abo, il y a un goût pour ça. Mais les gens ont la guerre en tête et sur leur cœur. C'est ça la différence. Abo, il y a un vite, il y a un massassi, il y a un bombo là, mais abo, il y a un vite, il y a un kichwa, il y a un mouro. Il y a un vite à être. Batou a dit à ma États-Unis, à taba pigé ma drone, mi amoye. Kama vite comme kichwa, la mouro, il y a moutou. Ou il y a comment. Les Américains ont cru qu'ils étaient, au fait c'est une super puissance, n'est-ce pas? Mais il y a des petites puissances, mais des puissances qui sont de cœur, qui ne sont pas de corps. Parce que je dis toujours qu'il y a trois catégories d'hommes. Il y a les hommes de corps, il y a des hommes de cerveau et des hommes de cœur. Il y a des hommes de cerveau, de cœur dans une guerre. C'est différent de toi qui es avec des mags, des drones, ainsi de suite. Lui, c'est dans sa tête. C'est la vie ou la mort. Il n'a rien à perdre. Et donc, moi, je pense que les conséquences étaient inattendues. Mais elles seraient prévisibles si les Américains avaient compris qu'effectivement, l'Iran avait développé aussi son arsenal militaire en dehors de son corps, disons, de son cerveau et de son cœur. Et aujourd'hui, même la Russie, elle a été mise à l'épreuve, n'est-ce pas? Même la Russie aussi. Elle pensait conquérir un pays dans 2, 3, 4 jours, 2 semaines. Ils ont fait de mauvaises prévisions militaires. Ils ont minimisé leurs adversaires. Mais est-il que la guerre, elle n'est pas toujours bonne, n'est-ce pas? Mais quand on la veut, il faut savoir la supporter.
Tout à fait. Voilà. Au sol de Rubasha, la politique de Donald Trump est critiquée. Vous le savez bien que quiconque Donald Trump a commencé par suspendre l'USAID. C'était une structure qui aidait les hôpitaux ici et beaucoup qui soutenait beaucoup d'actions humanitaires dans le monde, notamment ici. Nous, les plus faibles, en tout cas, on ressent dans nos hôpitaux que les soins gratuits, des trucs qui avaient des médicaments, bon, ça n'existe plus. Certaines ONG qui vivaient grâce à l'appui de l'USAID, bon, on fermait la porte. Voilà, c'est un problème. Et dans le monde des médias, je crois que les auditeurs ne le savent pas, la voix de l'Amérique n'existe plus. Quand c'est Donald Trump est venu, il a commencé par arrêter les émissions de la voix de l'Amérique. Pour lui, à ce milieu radio, il croit à la franga mingi, à une importance. Et en tout cas, dans le monde, tous les correspondants de la voix de l'Amérique, bote comme au chômage, va les suspendre biote. Voilà. Mais malheureusement, c'est là où nous sommes. Notre président, le président Félix Tshisekedi, c'est là où il pense, de ce côté-là, où il pense trouver des solutions au problème de la RDC.
Bon, en fait, c'est quand même complexe cette histoire. Mais moi, personnellement, je suis de ceux qui, déjà, quand Trump a été élu, j'avais estimé que le monde allait vers l'abîme. Parce que j'avais suivi une analyste qui avait psychanalysé Trump. Et il y avait beaucoup d'analystes, des psychiatres qui avaient trouvé Trump, c'est un fou. Trump, c'est un fou. Alors qu'il se présentait comme un homme. Il a été élu comme quelqu'un qui va faire la paix à travers le monde. Mais en réalité, ces psychanalystes l'avaient démontré plutôt, c'est le contraire. C'est un fou. Et il l'a démontré avant-hier, quand il a dit qu'il va détruire toute une civilisation. D'ailleurs, les gens pensaient déjà à une apocalypse, à la bombe atomique en Iran. C'est pour ça que déjà, vous avez des démocrates qui sont mis debout et disent ah, attention, attention, il faut appliquer l'article 25 de la Constitution. Ce type, c'est un fou. Et ceux qui croient en ce type-là, en tout cas, ils se trompent de trop. Trump, c'est un suprémaciste. C'est cette race de gens qui estiment qu'ils sont supérieurs à tous les autres.
C'est un raciste.
Ce sont les suprématistes. C'est un suprématiste. C'est Netanyahou. Ce sont les suprématistes. Vous voyez comment il a été de bombarder les Palestiniens. Donc il tue aux vieux. Donc la guerre la plus vue au monde, en direct, Gaza. Mais tout le monde est impuissant. Ce sont les suprémacistes qui dominent aujourd'hui. Et voilà, de toute façon, ceux qui croient en Trump, c'est Trump. Il se trompe. Trump, il est en fait dans une phobie d'impuissance face à la puissance chinoise. Parce qu'il prépare plutôt la guerre contre la Chine. Tu sais ce qui se passait au Venezuela? Tu sais ce qui se passe en Iran aujourd'hui? C'est contre la Chine qu'ils préparent. Ils ont de casser l'accès de la Chine à accès au pétrole. Et tous ses dérivés. Parce qu'il n'y a pas que le pétrole, il y a les engrais.
Ils vont le gaz naturel, le
voilà, défi. Tous les dérivés. Donc il est en train de casser l'accès de la Chine et pour réduire toute la montée du BRICS. Donc ça fait ça le combat de Trump. Et malheureusement, nous on continue à croire que Trump est du côté des faibles. Non, si vous n'avez pas les rapports de force, ne comptez pas sur Trump. On s'est vendu à moins cher et voilà, nous allons accueillir même les migrants que le monde entier refuse. Je sais, par exemple, les gens de Guantanamo. Aujourd'hui, ces gens sont là, on ne sait pas où aller, même leur pays d'accueil, leur pays d'origine, les refusent. Et j'espère que ce n'est pas ces gens qu'on va nous envoyer au Congo. Et au Congo, j'espère que pas à Bukavu, à Goma.
Voilà. Une parenthèse pour ceux-là qui n'ont jamais été peut-être dans ces pays, en Europe ou ailleurs, aux États-Unis. Souvent, ces immigrés là-bas, ce sont des fumeurs de chanvre,
des drogués.
Ce sont des fous, des drogués qui passent la nuit dans la rue. Niba maibobo ya kule bulaya, benye habana lala kainje, kuko bengine ba beba mizigo, batu wanakunya mapombe, bengine masapilo, des gens
qui font réfugiés ici à côté dans les pays limitrophes.
Voilà.
On refuse à ces réfugiés là de rentrer dans leur pays, mais on va nous amener des drogués venant des États-Unis. Voilà. Ça c'est aussi une cause profonde.
J'ai suivi un article
là. Ni va tout venir, habana makao, balienda kule, habana ma papier, habana fasi ya kulala, gouvernement des États-Unis nasema kama bon à tous les pokés à Babatou, peut-être la majorité sont des drogués, Valicha Banguna Kamani Batou Vigné, Havezi Kudji adapté, Havezi Kudji adapté, mais n'a pas les battu Njoba Tatoletea, Njoba Naleta Congo. Voilà, vous pouvez continuer.
Oui, moi j'ai suivi un article là sur RFI qui a démontré que les pays qui ont accepté l'accord avec Washington sur l'histoire des migrants, ce sont des pays en guerre, des pays fragiles. RDC, le Soudan, vous comprenez? Et pourquoi ces pays fragiles? Qu'est-ce que Trump prépare dans l'avenir? Parce que ils ne font rien au hasard. Ce qu'ils font, c'est pour avoir les résultats 20 ans après, 50 ans après. En amenant les immigrés, toute cette catégorie de gens-là, en RDC, qu'est-ce qu'on veut pour l'RDC dans 50 ans? C'est comme ça qu'il fonctionne. Nous, on le voit aujourd'hui, mais ils voient les résultats dans 50 ans. Vous comprenez? Donc, c'est quand même. J'ai suivi nos collègues de la société civile à Kinshasa, particulièrement Jean-Claude Katende et Tshombela. J'ai senti de la révolte dans les réactions. J'ai senti des gens qui ne s'attendaient pas à auxquels ils ont fait allégeance. Parce que c'était des gens très durs sur la société civile. Et depuis ce régime, ils avaient choisi de faire allégeance ou d'être plus clément. Mais cette fois-là, leur réaction par rapport à cette question des migrants, ça m'a quand même surpris. On sent vraiment, vraiment un sentiment de révolte. Et je pense quand même que. Moi, j'interpelle plus nos parlementaires. Hein. Je crois que nos parlementaires ont trahi les peuples congolais. Ils ont choisi de se taire. C'est vrai, c'est vrai. Quelqu'un aussi la voix à l'Assemblée nationale, on l'a mis dehors. L'autre est au Sénat, on l'a mis dehors. Bon, mais quand même, hein, je sais pas, chez le barré, il y a un adage chez le barré qui dit quand même, les chapeaux du chef, quand même, ça bouge, hein, il paraît, hein. Il y a un adage comme ça chez les règles. Hein. Ouais, c'est mon ami Descartes qui me le répétait. Mon ami Descartes qui me le répétait souvent. Mais parfois, quand même, le chapeau du chef, ça doit quand même bouger. Donc, vous avez été quand même élu par le peuple. À un moment donné, sacrifiez-vous pour ce peuple-là. Posez la question au gouvernement, c'est quoi cette histoire-là? Pourquoi tous accords, tous engagements opaques? Pourquoi ces accords opaques?
Voilà. Donc, désolé, Kakoum, avant que je ne donne la parole à Bosingisi, au maire de la ville. Parfois, quand nous faisons des analyses, les amis qui sont à Kinshasa, certainement qui sont en train de nous suivre, et pensent que nous sommes devenus tous membres de l'AFCM23, surtout quand nous faisons des critiques et des observations contre le gouvernement de Kinshasa. Mais ça étonne un tout petit peu, Désiré. Le fait d'être journaliste ne nous empêche pas de réfléchir et de voir ce qui se passe dans notre pays. Mais qu'est-ce qui nous arrive que l'on décide de vraiment d'amener des gens refusés qui ont quitté chez eux parce que peut-être ils ont eu des problèmes, ils ont voulu chercher asile aux États-Unis, on les refuse, qu'on les amène chez nous en RDC, ça étonne un tout petit peu, Désiré Capena.
Bon, la plupart des pays qui ont accepté ce deal avec Donald Trump, hein, accueillir les migrants refoulés des États-Unis
et de leur pays d'origine.
Ah oui, c'est des pays fragiles, comme l'a dit Oswald. La plupart, c'est les pays à la tête desquels se trouvent des chefs d'État qui, devant Trump, se couchent souvent à plat ventre, hein, pour négocier et solliciter quelque chose, notamment dans la fin de la guerre qui consume leur pays. Soudan, bien entendu, on cherche peut-être à faire. Donc, c'est une opération visant à faire plaisir aux Américains. Parce que, selon Trump, il estime que tout ce qui est migrant, il dit que ce sont des bandits, des voleurs qui viennent manger le pain des Américains.
Et les chats.
Oui, oui. Et ils vont venir manger vos chats dans vos maisons. Donc, il vampirise les migrants. Hein, juste pour montrer en fait son aversion, c'est un monsieur qui en fait il n'aime pas, c'est un, comme nous l'avons dit, vous l'avez traité si bien, dit des suprémacistes, il l'est en réalité. Alors, dans notre pays, je crois que ça fait quand même, ça pose un débat, ça doit créer un débat quand même, lorsque, parce que vous bénéficiez d'une parcelle de pouvoir, vous estimez que vous pouvez décider à la place de 100 millions de personnes,
et gâcher l'avenir, hein,
et gâcher l'avenir
de tout le monde.
Et il dit que dans cette fournaise-là de Kinshasa, dans cette ville excessivement sale de Kinshasa, qu'on va enlever, mais on appelle ces migrants à la mort. Mais ils ont, peut-être il y a des gens qui viennent dans des pays encore un peu aisés que le nôtre. Vous allez le mettre à Kinshasa.
Même Kinshasa est densément occupé.
Densément peuplé, pour prendre votre terminologie.
Densément peuplé.
Voilà.
Donc il va les amener.
Hein? Et puis, ce qui me gêne, hein, c'est le fait que, encore une fois, c'est la deuxième fois, pour une décision qui sollicite un débat au niveau de la représentation nationale, c'est encore une fois le fait d'un monsieur qui décide. Je ne sais pas nous allons où. Effectivement, je ne peux plus me poser cette question. Nous sommes droit dans une dictature qui ne dit pas son nom. Comment on peut pas, on peut, aujourd'hui, lorsqu'il y a eu des accords entre le pays et le Rwanda,
l'accord de Washington,
notre voisin le Rwanda a présenté les dossiers à l'Assemblée avant toute ratification. Dites-moi si c'est bon. Voilà comme ça, comment le président Kagame a procédé. Est-ce que c'est là pour autant qu'il n'est pas président? Mais il est président, il gère bien son pays. Mais pourquoi chez nous, c'était le fait du roi soleil? Pourquoi? Non, je pense que il faut que, malheureusement, excusez-moi d'enchaîner, il y a plusieurs idées qui s'achèvent dans la tête, mais lorsque vous voyez le cours des choses, lorsque à l'Assemblée, ce qui doit être en fait un creuset de débat, c'est là où les discussions doivent se tenir. Lorsque c'est devenu un lieu où tu oses une virgule mal placée dans votre bouche et immédiatement tu prends la porte, c'est un danger. C'est un mauvais signe. Ça s'annonce très mal. C'est que mon pays, est-ce que c'est comme ça que nous comptons nous réunifier un jour pour encore être muselés? Vous critiquez, il arrivera un moment où, mais si nous sommes en train de débattre, il arrivera un moment où nous, on vous interdira, M. Taïs, d'organiser des débats politiques qui parleraient, par exemple, du mal du roi soleil. C'est ça le problème. Moi, je pense que le pays est sur une mauvaise piste et je crois que les négociations qui, peut-être nous allons en parler après, les négociations qui commencent peut-être en ce mois d'avril en Suisse, il y a de la matière qui s'ajoute. Je pense que le protocole des droits doit être revu parce qu'il y a de la matière. Les 7 protocoles là signés sur lesquels les deux parties sont convenues, je crois que ça ne suffit pas parce que j'ai la matière. Il faut ajouter maintenant,
voilà.
Il faut ajouter et protéger notre démocratie parce qu'il y a péril à la demeure.
Voilà. Revenons à la guerre du Golfe Bossingissi, les conséquences. Nous sommes en train de les ressentir ici. Voilà, avec la question du carburant, mais également il y a d'autres conséquences.
Ok, merci pour la parole, mais je souhaiterais quand même insister, revenir sur la psychologie de l'homme Trump. Donc c'est vraiment l'extrême droite raciste, et tout ce qu'il fait va dans ce sens-là. Alors, je vois mal un Africain, un président africain, qui peut chercher à collaborer avec un type comme Trump. Pour revenir maintenant sur les conséquences de la guerre du Golfe, on est en train d'appeler ça le troisième choc pétrolier. Parce qu'on ne peut pas parler de la situation actuelle et ne pas parler du premier choc pétrolier qui a eu lieu en 1973. Et c'était à la suite de la guerre du Yom Kippour, où les Arabes, les pays arabes avaient pensé surprendre Israël en attaquant Israël sur 3 fronts. Alors d'un côté il y avait l'Égypte, de l'autre côté il y avait la Syrie et il y avait un autre pays. Et les 3 pays ont attaqué en même temps Israël, croyant
l'effet de surprise qui allait.
Voilà. Malheureusement, il y a eu intervention des États-Unis qui ont créé un pont aérien et ils ont sauvé Israël de justesse. Face à cette humiliation, des pays arabes, ils se sont dit alors on va utiliser la guerre du pétrole. Donc on va augmenter les prix du pétrole et voir comment ces pays européens vont s'en sortir. Et c'est comme ça que du jour au lendemain, on est passé de 3 dollars le baril à 12 dollars. Donc on a multiplié par 4. Et ça a été une surprise vraiment désagréable pour les Occidentaux, parce qu'ils n'avaient pas d'autre solution. Le pétrole, c'est un produit qu'on ne peut pas remplacer. Sa demande est inélastique. Et ils devaient juste subir, donc ils se sont vus en train d'être appauvris du jour au lendemain, sans solution. Ils ont eu le temps de comprendre, bon, de changer les méthodes, comme on appelle ça, les habitudes de consommation, en remplaçant le pétrole par l'électricité. Ils ont essayé de développer d'autres sources d'approvisionnement, en développant l'énergie nucléaire, et ils s'en ont relativement sortis. Mais au moins le prix du pétrole n'est plus rentré à 3 dollars. Il a augmenté et n'est jamais revenu. Il y a eu le deuxième choc pétrolier, et c'est là qu'intervient maintenant l'Iran, parce qu'en 1979, il y a le Shah d'Iran qui est rentré de l'Europe, de la France, pour maintenant créer cette révolution qu'on est en train de vivre actuellement. Et compte tenu de ça, les Européens se sont arrangés pour déstabiliser l'Iran en soutenant l'Irak. Et l'Irak est entré en guerre contre l'Iran. Et ça a été le deuxième choc pétrolier où le prix du pétrole est passé de 12 dollars à 24. On a doublé le prix, croyant affaiblir justement l'Iran. Ça n'a pas marché. L'Iran a fait la guerre pendant 8 ans contre l'Irak. Et finalement, c'est l'Irak qui est sorti essoufflé de cette guerre. Et comme les Européens vous payent toujours en monnaie de singe, on a encore créé une guerre contre l'Irak. C'était la première guerre du Golfe, où on a décapité Saddam Hussein. Pourtant, qui les a servis pour déstabiliser l'Iran. Et enfin, nous sommes maintenant en face de cette troisième guerre du Golfe, qui est où le prix du pétrole est passé de 70 à 150 dollars, le prix du baril. Et tout le monde est surpris, parce que vous voyez la révolution iranienne, comme Habib le disait, ce n'est pas la révolution des individus. Donc ils sont venus avec leur philosophie. Depuis 1979 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 46 ans qu'ils préparent la guerre. Ils préparent la guerre et aujourd'hui, ils ont surpris tout le monde. Parce que non seulement ils maîtrisent les balistiques, mais aussi ils ont créé cette histoire des drones. Ils ont leur drone Shahid, hein, qu'on appelle Témoin. Et la révolution, c'est dans la tête. C'est pas que quand on tue une personne, que ça va décourager tout le monde. Parce que ils disent que ce sont des martyrs. Même si l'ayatollah est mort, c'est un martyr, quelqu'un d'autre va les remplacer. Et Trump est surpris, désagréablement surpris, de voir que ces gens, ils ont résisté jusqu'à présent. Et eux maintenant, ils commencent à se demander comment sortir de ce bourbier. Mais pour revenir maintenant à la situation qui nous concerne, c'est-à-dire notre pays, c'est un pays qui ne produit pas le pétrole. Ceux qui produisent le pétrole peuvent profiter de cette hausse. Un pays comme l'Angola, quand le pétrole augmente, ce sont des revenus qui augmentent. Un pays comme le Gabon, c'est la même chose. Mais nous, maintenant, nous, on ne fait qu'importer. On importe le carburant, on importe tout. Alors, avec cette hausse du pétrole, c'est la population qui en souffre. Et on le sent chaque jour. Moi-même, j'étais surpris. Je vais à la station service. Avec mes 3000 francs, je voulais acheter un litre de carburant. On me dit, c'est maintenant 5500. Et qu'est-ce qui se passe? Donc tu es en train d'être appauvri. On a donc tu perds de l'argent comme ça. Mais à part le fait que nous perdons de l'argent, j'ai suivi par exemple le gouvernement Tshisekedi qui a dit qu'ils vont émettre des eurobonds. Donc ils vont s'endetter sur le marché international pour financer le développement. Mais maintenant avec cette crise, c'est-à-dire on va s'endetter à des taux élevés. Très élevés. Alors ça c'est aussi un problème.
vous endettez à des taux très élevés et vous n'avez pas de garantie pour rembourser. Troisièmement, il y a la hausse généralisée du prix. Donc, heureusement que le maire de la ville est là. Le prix des taxis a augmenté. Déjà, on était à 1500, 2000. Bon, ils se sont efforcés pour amener ça à 1300, à 1200, ce qui est déjà une bonne chose. Le prix de la nourriture, ça va augmenter parce que nous importons tout, même ce qui vient de la Chine, comme le prix des avions va augmenter. C'est-à-dire aussi le prix de tout ce qu'on importe de la Chine va augmenter. Et puis maintenant, il y a les risques pour certains pays, bon, pas pour les Congolais parce que nous, on supporte tout. Mais pour d'autres pays, il y aura un risque d'instabilité politique. C'est comme ça que, par exemple, le Sénégal, le président sénégalais a dit, moi, je ne fais plus de mission à l'extérieur pour réduire les coûts, les dépenses. La présidente de la Tanzanie vous dit non, nous on commence à utiliser les bus, on ne veut plus continuer à dépenser des carburants. Donc il y a aussi ce risque d'instabilité politique. Maintenant, par rapport à ce que Oswald a dit, qu'en réalité cette guerre que menait Trump contre l'Iran, c'est la Chine qui était visée. Parce qu'au Machi, on dit à Kazunguzibwa, donc on peut faire tout ça, mais c'était la Chine qui est visée. Parce que le développement de la Chine fait peur. C'est un pays qui va être la troisième.
Est-ce que la première puissance. Est-ce que Désiré Kakuma vous a compris quand on parle de Kazunguzibwa?
Oui, c'est lui qui a répété.
C'est moi qui ai terminé.
Voilà. Kazunguzibwa. Voilà, c'est
mon enseignant Kazungu qui m'avait donné le sens.
Ah voilà, justement.
Donc c'est vraiment la Chine. C'est toujours la Chine qui est visée. Parce que en attaquant le Venezuela, c'était un des plus grands producteurs de carburant. Et tous les carburants qui venaient de Venezuela allaient vers la Chine. L'Iran, c'était aussi un exportateur du carburant vers la Chine. Mais avec le projet de créer les BRICS, donc on voulait commencer à payer les carburants en yuan, ou bien en crypto-monnaie. Et les Américains voyaient que le dollar était en train de perdre de vitesse. Et c'est comme ça qu'on a attaqué, croyant que ça va plus pénaliser les autres sans toucher l'Amérique. Malheureusement, l'Iran vient de surprendre le monde entier.
Et il n'a pas cédé aux négociations à Islamabad. Non. Les négociations ont terminé ce matin par un échec total. Le vice-président américain est rentré disant que les Iraniens ont refusé carrément tout ce qui a été proposé par les États-Unis. Et les Iraniens ont déclaré qu'on ne peut pas céder à des demandes irréfléchies. Pour l'Iran, c'est une... Parce que qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils veulent que l'Iran renonce à son uranium enrichi. Ils ont un stock d'uranium enrichi. Parce que quand vous arrivez à enrichir à 60%, on va vous dire respect. Parce que ce n'est pas donné à n'importe quel pays. Et ils veulent que les Iraniens quittent les détroits d'Hormuz. Ils disent que non. Si nous quittons les détroits d'Hormuz actuellement, ça rapporte par an au moins 60 milliards. Si le rythme actuel continue, chaque navire paye 2 millions de dollars par passage. Imaginez par mois, par an. On a évalué ça à 60 milliards de dollars. Alors pour eux, c'est une question de... Après avoir vu que les Américains et les Israéliens ont détruit tout le pays avec le pont, les infrastructures, les centrales nucléaires, tout ça, les universités, ce qui est minable. On ne peut pas penser qu'une nation civilisée bombarde l'université.
Et donne des leçons maintenant à nous.
Voilà. À nous de commencer. Et puis,
ils ont
les
modèles,
les droits de l'homme.
Ils ont demandé les facultés où il y a les
techniques. Les sciences, oui.
Parce que l'Iran, c'est un pays d'ingénieurs.
Tout à fait.
Un pays d'ingénieurs.
Et les Iraniens ont dit, mais vous pouvez tout détruire, vous ne détruirez pas les Iraniens. Parce que ça vient de la tête des Iraniens.
Ça ne vient pas de Washington, non. C'est leur intelligence.
C'est ça. Alors, lorsque vous avez aussi un chef d'État, je m'imagine seulement si c'est un chef d'État africain qui avait déclaré ce que le président américain a dit. Il a dit qu'il va faire disparaître une civilisation.
De 3500.
Ce n'est pas possible. C'est bon. Moi, j'avais froid. En attendant,
une la nation américaine bon, est de 250 ans.
Tu vas qualifier de fou, non?
Mais les Américains, c'est moins de autant de siècles. Oui. Le peuple iranien.
Iranien.
Le peuple millénaire. Oui. Et vous allez détruire un peuple millénaire. Mais
voilà.
C'est fou.
Voilà. Merci, Jean-Pierre. Monsieur le maire, j'ai vu que la semaine passée, il y avait diminution de véhicules de transport dans la ville de Bukavu. Il y avait en tout cas fluidité. C'était pas comme d'habitude. Même on pensait que l'assurance demandée allait diminuer les véhicules qui circulent dans la ville, mais c'est le carburant plutôt. Quand on a commencé à vendre un litre à 5 500, 6 000 même, heureusement, il y a eu une réunion au niveau du gouvernement, je crois, et on a essayé de rencontrer les opérateurs économiques. Et vous êtes entendu sur quelque chose, mais je ne sais pas si, parce que hier encore, en tout cas, j'ai constaté que la mesure n'était pas suivie jusque-là.
Merci, merci.
Mais vous êtes entendu sur quoi?
Merci pour la question. Comme je vous ai dit, notre approche est participative. Quel que soit ce que les gens disent, nous ne prenons pas de décision unilatérale, nous consultons les parties prenantes. Et c'est dans ce cas que, avec tout ce qu'on a raconté ici, je ne vais pas revenir sur ça, tous les problèmes que Trump crée de par le monde, je vais faire une parenthèse. Trump n'est que le reflet de l'Américain typique. Et ceux qu'on pourrait dire des démocrates, au fait, ce sont des hypocrites. Pour les Américains, le monde, c'est eux. C'est eux le monde, ils doivent diriger le monde, c'est fini. Alors il y en a qui utilisent ce qu'on appelle la soft power, ils vous dirigent sans vouloir montrer qu'ils vous dirigent, et il y a ceux qui sont un peu plus ouverts, un peu plus, bon, je ne veux pas dire bandits, mais primaires, ils ne savent pas faire un peu de la diplomatie comme Trump. Mais les Américains, c'est les Américains, et c'est ça leur politique. Nous avons invité les transporteurs, tout le monde qui est dans le secteur, et il en est ressorti un certain nombre de décisions qui sont ressorties dans le communiqué que le gouverneur a signé. Et puis j'ai aussi fait un communiqué fixant les transports, les coûts de transport urbain. Et nous avons essayé de protéger notre population. C'est pourquoi un peu plus tôt je disais que dans chaque taxi, il doit y avoir un prix affiché. Et la police est instruite de faire des contrôles spontanés, aléatoires. Gare à celui qui ne sera pas un autre. Le prix du taxi est à 1200. Il a juste monté un tout petit peu. Il en va de même des stations. Le prix du mazout, il est à 4200 et le prix de l'essence, il est à 4000 francs. Et on leur a demandé d'afficher visiblement ces prix dans leurs stations et les patrouilles iront de manière spontanée et de manière aléatoire. Et ceux qui seront surpris en train de bafouer ces mesures que nous avons convenues ensemble, eh bien, ils subiront la rigueur de la loi. L'idée, c'est quoi? Qu'on a dit, l'homme est au centre de ce que nous faisons, et donc nous voulons que ce qui se passe de par le monde affecte le moins possible les gens. Parce qu'il y a aussi des hommes d'affaires, vous allez m'excuser les termes, qui veulent profiter de la situation pour gonfler leur bénéfice. Alors que, jusqu'à récemment, le carburant que nous utilisions à Bukavu, c'est un des lots qui étaient importés avant que ce grand conflit ne se fasse. Et donc, nous allons continuer à suivre. Vous avez parlé de cette question d'assurance. Nous l'avons prolongée une quinzaine de jours. C'est pour éduquer les gens. L'assurance, c'est bon. On ne veut pas forcer les gens. Mais il y a des accidents tous les jours. Déjà hier, il y avait un motard qui a cogné une petite fille. Pour qui va prendre ça en charge dans la situation qu'il y a, si cette moto n'est pas assurée? Et d'ailleurs, laissez-moi le dire ici, il y a une interdiction formelle aux motards de circuler sur le boulevard Patrice Emery Lumumba. J'en vois qui continuent à jouer avec le feu. Une opération sera mise en place très bientôt et le motard et les propriétaires de la moto et la personne sur la moto seront punis. Parce que si vous savez déjà qu'un motard ne doit pas vous amener sur le boulevard, pourquoi vous lui demandez de vous amener sur le boulevard? Si vous avez une moto, pourquoi vous ne donnez pas des instructions au motard que je ne veux pas que vous soyez sur le boulevard? Et le motard le sait. Donc, les opérations seront menées à ce moment-là
Nous avons aussi demandé aux véhicules qui ne sont pas en état, il y a des véhicules qui n'ont pas des phares, des, tout ça, qui quittent la chaussée, qu'ils aillent réparer, puis qu'ils reviennent. On ne veut empêcher à personne de faire du business. Mais nous voulons sécuriser nos gens. C'est dans ce même cadre que nous avons demandé aux opérateurs économiques d'être humains. Nous traversons des situations difficiles à cause de la mauvaise gouvernance. C'est une des causes profondes. Et cette mauvaise gouvernance, on la voit. On achète des jeeps à certaines personnes. On prend des réfugiés d'autres pays. D'ailleurs, pas des réfugiés, des refoulés. Des gens que, dont même leur pays ne veulent pas. Et nous, on a des réfugiés à nous dans les pays voisins qu'on ne veut pas ramener. J'aimerais aussi profiter de cette occasion pour dire, le doyen Oswald va m'excuser, mais cette remarque, elle ne va pas seulement à la société civile, elle va aussi aux acteurs politiques. J'en vois qui soufflent du chaud et du froid, qui jouent au cache-cache. Prenez des positions. Hein, un peu comme le disait le monsieur là. Ils sont un peu borderline, on ne sait pas ils sont où. Prenez des positions. Les faits sont là. Ce ne sont pas des faits que nous avons inventés. Il y a de la gabégie financière, de la mauvaise gouvernance. La dictature, elle est là, elle n'est plus à démontrer. Vous voyez, ici, on en discute, on parle de tout. Allez faire ça à Kinshasa. Moi, je connais des petits qui sont aujourd'hui en prison. Le professeur Pascal Issoumbich, son avocat, maître Dieu Merci Moubiko, en prison, à l'auditorat militaire, pour avoir dit quoi? Pour avoir fait quoi? Simplement parce qu'ils sont de l'Est, ils ont parlé avec leurs familles. Il y a des petits qui d'ailleurs sont des petits qu'on connaît ici, des communicateurs, de l'INC au pouvoir, qui sont en prison jusqu'à aujourd'hui. Ouais, un peu. Mais les gens ne veulent pas dire, ils veulent mettre les gants. C'est de la dictature. Et face à la dictature, quelle doit être la position? Le modèle, c'est l'Iran. Il faut une révolution. C'est pourquoi nous, on ne parle pas de rébellion. Nous ne sommes pas une rébellion. Nous sommes une révolution. Nous voulons que le Congolais prenne conscience de ce que Dieu lui a donné. Nous sommes au milieu de l'Afrique. Franz Fanon a dit, l'Afrique, la République démocratique du Congo, c'est la gâchette de l'Afrique. Il faut que le Congolais comprenne cela. Nous avons nos diversités et on veut jouer avec ces diversités. Mais ces diversités font notre force. Et c'est ce qui fait que des gens nous craignent. C'est cette diversité qui fait que certains veulent venir nous imposer et nous intoxiquer d'autres cultures. Mais si nous prenons conscience de ce que nous sommes, si nous adoptons le modèle révolutionnaire du type iranien, je ne dis pas évidemment religieux, mais qu'on prenne conscience de ce qu'on est, eh bien, on va créer des industries. Qu'est-ce qui nous manque ici pour... Nous avons du pétrole ici, dans ces pays. Pourquoi on a continué à en importer? Nous avons, je ne sais pas, citer n'importe quel type de minerai. Nous avons des... Pourquoi les Congolais doivent toujours continuer à avoir une économie extravertie? Pourquoi le monsieur qui prend des dettes, qui engage, il endette la population jusqu'à tel niveau, mais tout le monde se tait comme si personne ne voyait? Prenons nos responsabilités. Cette illégitimité des institutions, c'est ce qui fait à ce qu'aujourd'hui on soit là. Qu'attendre d'un parlement qui ne fait que... Au fait, c'est comme un espace théâtral. On vient là, on s'amuse, on soulève des dossiers qui n'ont pas d'importance.
Et puis on attend...
Et à la fin, on les paye grassement. Et puis tout le monde veut avoir une petite maison en Europe. C'est photographié autour de je ne sais pas qui. Ce sont des institutions illégitimes. Et ça, ce sont des causes profondes de cette révolution. Parce qu'on doit avoir des institutions qui réellement représentent ces pays. Corruption, antivaleur. On vient d'en parler ici. Comment vous décidez, vous, un seul individu, que vous allez amener des milliers et des milliers de gens? On ne nous dit même pas, on va vous payer combien. Mais vous les amenez pour faire quoi? Alors que vos propres populations, vous ne savez même pas les... Non, vous ne savez même pas prendre soin de ce que vous avez.
Donc, la RDC qui va les accueillir,
vous allez à Ouvira, vous allez à Mwenga, à Chabunda, ils dans la misère la plus totale. Et puis, vous voulez amener des réfugiés. Donc, moi, je pense qu'il est temps pour nous tous, pour tous ceux qui nous suivent, de s'approprier les idées de la révolution. Parce qu'à part la révolution, je ne vois pas de façon de faire. Si l'Iran résiste aujourd'hui aux Américains, c'est parce qu'il y a eu une appropriation populaire. Mais aussi longtemps que la population va se laisser manipuler par quelques personnes au gros, au ventre bédonnant à Kinshasa qui boivent leur champagne le soir, eh bien, nous allons continuer à être un pays qui subit et qui ne sera pas respecté. Alors que la RDC a une vocation d'être une puissance et une voix qui parle, non pas seulement dans l'Afrique, mais sur le plan international. Et ça, ce sont les choses qui nous motivent. J'aimerais inviter ici toutes ces organisations des droits de l'homme, Human Rights Watch et je ne sais pas qui d'autre, qui chaque fois font des rapports sur oh non, l'Est de la RDC. Et ils ne voient pas ce que Trump fait en Iran. Est-ce qu'ils ont les yeux fermés? Est-ce qu'ils ne voient pas ça? Est-ce qu'ils ne voient pas tous ces problèmes? Mais où sont ces rapports-là? Vous ne les verrez pas. Vous ne les verrez pas. Est-ce que ces organisations ne fonctionnent que pour certains pays et non pas pour d'autres? Ce sont des questions à se poser.
Oui, monsieur le maire, justement, bon, nous sommes une population, nous on attendait, on pensait d'ailleurs que la guerre, comme vous étiez en train de les chanter à la FCM23, on pensait qu'on n'allait pas arriver en 2026 sans que Félix ne quitte le pouvoir, mais on se rend compte que vous aussi, vous tardez d'y arriver, apparemment, Nabachinda. Parce que bon, vous allez vous reculer, bon, c'est ce qui fait que bon, on finit par ne plus vous croire aussi, apparemment, Bitu Vinashindikana.
Non, Bitu Vinashindikana doit être ici. Déjà, votre langage, vous voyez, vous dites mouille. C'est pas un langage de révolution. Si réellement le problème c'était un problème de Congolais, et donc ça doit être si à Twindele, et c'est ça ce que nous attendons. Quand les gens commencent à dire Bileni Vienu, bon, c'est-à-dire vous nous ramenez dans les mêmes systèmes qu'avant, alors que nous disons non, allons ensemble changer les choses. C'est ça ce que nous voulons. C'est vrai, la guerre est là, c'est réalité, mais nous disons aussi, et nous l'avons dit dès le début, que la guerre ce n'était pas la première option. Parce qu'une guerre, ça coûte. Ce n'est pas seulement financièrement, mais ça coûte humainement. Et donc, si nous pouvons résoudre les problèmes d'une manière civilisée, en dialoguant, parce que les mots sont connus, la problématique, on l'a étalée ici sur cette table. Il faut faire de la RDC une grande nation. Et pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'il y a A, B, C, D, E, F, G. Ces problèmes sont connus. Et nous avons commencé par dire, parlons-en. Et si nous sommes dans les positions qui sont les nôtres aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on n'a pas la capacité d'avancer. C'est simplement parce qu'on donne encore et encore et encore la chance aux négociations. Mais en face de nous, on a un leadership faible qui pense qu'en vendant le pays à Trump, Trump va le protéger. Mais s'il ne le sait pas, il n'y a aucun militaire américain qui viendra mourir ici. C'est ça la logique américaine. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, s'il ne veut pas de la paix, eh ben, il aura... En tout cas, le principe, nous l'avons déjà dit, si la menace continue, nous allons la neutraliser d'où elle vient. Non pas que nous sommes belliqueux, nous sommes des hommes de paix, mais parce que, bon, à un moment, nous voulons protéger cette population et nous voulons que cette révolution ne soit pas seulement militaire, mais qu'elle soit aussi...
D'accord.
Dans la tête. Donc, ce n'est pas que bien à Tushinda, Habitushinde, tout le monde est à Amani.
Les gens se fatiguent, on est déjà fatigué avec la guerre, surtout que Kinshasa a interdit l'ouverture des banques ici. On sent que la circulation n'est pas... La communication avec Kinshasa n'est pas facile. Hein, beaucoup de gens ne savent plus se promener ou voyager parce que les passeports ont expiré. Pour en avoir, il faut aller, je crois, à Beni. À Beni, bon. Quand vous allez à Kinshasa, vous quittez Bukavu, arrivez à l'aéroport. On a toqué à Bukavu. Bon. Enda kwanza pembeni. Là, on vous interroge. Bon. Donc, on est vraiment enclavé, même si on ne le dit pas, mais la guerre nous a créé aussi beaucoup de problèmes. Mais bon, vous qui avez compris, bien avant peut-être, nous étions en train de penser que vous allez y aller vite, mais on se rend compte que si vous y allez en reculant, bon, mais aussi, on pense qu'il faut donner la chance à la paix, parce que la guerre, comme vous l'avez dit, c'est pas ça la première option. L'idée c'est de dialoguer, c'est de trouver des solutions afin que le bien-être de la population puisse être retrouvé. Et c'est pourquoi nous allons très bientôt parler de ces négociations. C'est pour parler qui doivent se poursuivre en Suisse. c'est du 13 au 17 avril de 2026. Ça implique le gouvernement congolais et l'AFC-M23. Ces discussions porteront sur l'accès humanitaire, le désarmement et la sécurité. Et comme nous l'avons lu, monsieur le maire, on nous a dit qu'il y aurait un problème, c'est le problème de passeport. Donc ça ne se pose pas seulement au niveau de la population. Il y a plusieurs obstacles qui devront être levés avant la tenue effective de ces négociations. Le premier a trait à la question des documents de voyage en possession des délégués de l'AFC-M23. Alors que des discussions sont prévues en Europe, la plupart des représentants du mouvement ne disposent pas de passeports valides, a-t-on appris. Si jusqu'à présent le Qatar acceptait de faciliter leur déplacement pour le rendez-vous fixé à Doha, il pourrait en être autrement sur le vieux continent. L'autre inconnu qui rend l'initiative délicate réside dans le fait que l'AFC-M23 est une entité sous sanction et que plusieurs de ses dirigeants le sont également, certains faisant même l'objet des mandats d'arrêt émis par Kinshasa. Et c'est la grande difficulté d'ailleurs de la société civile, certaines organisations de la société civile qui étaient financées par certains pays européens qui refusent justement de financer les organisations qui travaillent ici dans la zone dirigée par l'AFC-M23. Et quand bien même ils vous financent, ils refusent que les taxes, les impôts ne puissent pas être payés par l'argent du contribuable européen. Bon, voilà, c'est parmi les problèmes qui se posent, mais en tout cas, sauf changement de dernière minute, du 13 au 17 avril, en Suisse, il est prévu de pourparler, donc on va poursuivre. Je ne sais pas, au sol de Rubasha, vous avez entendu qu'il y a deux obstacles.
Bon, les deux obstacles, pour moi, est-ce qu'ils le sont vraiment? D'abord, il y a deux niveaux d'analyse de cette question. Le premier niveau, c'est l'intérêt pour les Congolais, c'est la paix. Donc, de pourparler. Les gens qui vont là-bas, ceux qui les reçoivent, c'est tout le monde qui est autour, est-ce qu'on est vraiment engagé pour la paix en RDC? Si oui, alors la deuxième question, c'est des sanctions, et serait secondaire. Parce que d'abord, ces sanctions, désolé, c'est en fait, c'est comme on dit, ce sont des sanctions à géométrie variable. Pourquoi? Parce que ces sanctions ne sont pas prises pour l'intérêt des Congolais. Les Congolais qui ont été sanctionnés, ce n'était pas pour l'intérêt national, c'était pour l'intérêt des pays qui ont pris ces sanctions-là. Et ça fait que ces sanctions sont appliquées de manière injuste. Le président syrien aujourd'hui était terroriste, recherché au monde entier par les Américains. Ils avaient mis plus de 50 millions de dollars pour les retrouver. Mais c'est eux-mêmes qui l'ont amené au pouvoir, un terroriste qui était recherché par eux. Vous comprenez? Donc ces sanctions n'ont de sens que pour leurs intérêts.
Mais est-ce que la Suisse est dans l'Union Européenne?
Je voulais y arriver. Donc c'est pour leurs intérêts. Aujourd'hui, la Suisse accepte de recevoir ce pouvoir de paix. Donc elle doit prendre des dispositions pour faciliter les parties au conflit. La Suisse n'est pas dans l'Union Européenne, mais malheureusement, la Suisse a basculé avec la guerre en Ukraine. La Suisse a appliqué les sanctions de l'Union Européenne contre la Russie. Et pourtant, la Suisse n'est pas membre de l'Union Européenne. Donc, aujourd'hui, il y a un débat en Suisse. Oui ou non, il faut que la Suisse adhère à l'Union Européenne. Mais il y avait davantage des gens qui étaient favorables. On a donné faire, je crois, un référendum. Mais avec les sanctions qui ont été imposées à Colonel Beau, c'est un grand analyste de la question russe, c'est un Suisse qui vit en Belgique, il a été sanctionné par l'Union Européenne, cette question a gêné les Suisses. Les Suisses, ça fait que ça a renversé la tendance ensuite et les gens refusent. Parce qu'ils trouvent que finalement l'Union Européenne, c'est une machine à violation des droits des personnes. C'est une machine à violation des droits des individus. Et c'est cette histoire des sanctions, effectivement, on se rend compte que c'est une violation massive des droits humains parce que ce sont des mesures politiques qui n'ont rien de judiciaire. Absolument rien de judiciaire. Et pourtant, le droit est clair. On ne peut pas accuser quelqu'un, arrêter quelqu'un sans être écouté par son juge. Ça, c'est le droit fondamental. Et tous les gens qui sont sanctionnés politiquement par l'Union européenne sont victimes de ces violations des droits humains. Parce qu'on les empêche de circuler, on les empêche d'accéder à leur compte, et ainsi de suite. Autant de droits violés. Et puis là, c'est pour leurs intérêts à eux, et pas à l'autre. Tous ces gens qui ont été sanctionnés en RDC depuis longtemps jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé dans leur vie? Notre frère qui est député national d'Ouvira,
Bitakwira,
il n'a pas été réélu, il n'est pas député national.
Oui,
malgré les sanctions.
Katintima qui venait d'être
le vice-président, est-ce qu'il n'est pas sous sanction?
Sous sanction des États-Unis.
Donc, ce sont des mesures à géométrie variable et ça n'a pas d'intérêt pour nous. Et je pense que si la Suisse a accepté de prendre le relais de Doha, bien sûr, on comprend Doha aujourd'hui avec la guerre en Iran, il y a tout ce problème sécuritaire. Tous les aéroports aujourd'hui dans ces pays-là sont des cibles pour l'Iran. Ça fait que les gens ne voient pas. Même les hôtels. Les hôtels, parce que les Iraniens sont en train de bombarder les hôtels qui abritent les militaires américains. Ça fait que les Iraniens ont bombardé toutes les bases américaines dans la zone. Ça fait que les Américains ont déplacé les militaires dans les hôtels. Et maintenant, les Américains sont en train de bombarder les hôtels qui sont où sont logés ces gens-là. Ça fait que de plus en plus, il y a très peu de gens qui vont dans cette zone-là. Et parce qu'il faut aider la RDC. Parce que le Doha n'a pas voulu abandonner la question. On a négocié avec la Suisse. La Suisse a accepté. Maintenant, la Suisse doit prendre ses responsabilités. C'est de parler de paix qui met en face des gens en conflit armé. Et donc, s'il y a des gens sanctionnés et qui sont les partenaires pour la paix, on a trouvé des solutions. Parce que dès lors, on accepte ce tour de la table. C'est pourquoi se mettre fait à l'esprit de la belligérance et devenir partenaire au processus de paix. Et si on est déjà partenaire au processus de paix, pourquoi ne pas prendre des mesures d'urgence pour permettre aux gens de se déplacer en toute liberté et faire ce qu'ils doivent faire? Moi, je crois que ces mesures-là, franchement, et non d'intérêt que pour l'Occident. Si l'Occident ne trouve pas ses intérêts dedans, il n'y aura pas de blocage.
Voilà, espérons que la Suisse va faciliter, mais tel que je connais les Blancs, en tout cas quand il y a des sanctions, parfois les Européens ne fléchissent pas. Espérons, parce qu'en annonçant certainement que sur le plan diplomatique, il y a déjà...
Non, Thaïs, on a beaucoup d'exemples. C'est pour ça que j'ai dit que c'est la géométrie variable. C'est à faute de leurs intérêts. Le président syrien aujourd'hui, qui l'ont installé, terroriste, dans tous les... au département d'État américain, c'est reconnu comme terroriste. 50 millions de dollars. L'Union européenne, est reconnu comme terroriste. Mais c'est eux qui l'ont placé au pouvoir. Et il y a d'autres cas, beaucoup de cas d'ailleurs. Ils ont lancé maintenant d'arrêt contre Poutine, qui l'a arrêté.
Netanyahou,
ça n'empêche pas qu'il circule en France. Autrement, la France a signé tous les engagements. Donc, c'est vraiment aujourd'hui variable. Si la Suisse veut que ces gens-là, si les gens sont engagés pour la paix en RDC, ils estiment que ce sont ces gens qui sont des partenaires pour la paix en RDC, ils vont trouver des formules pour le faciliter le déplacement.
D'accord. Désiré, mais il y a, je crois, une année ou une année et demie, il y avait un scandale encore, parce que la RDC, c'est un pays de scandales. Au niveau de la Suisse, je crois que c'était le président Félix Tshisekedi qui avait voyagé en Suisse. Et dans moins de 2 jours, je crois qu'il y avait une dépense d'environ 500 000 euros qui avait été dépensée. Et ça suscitait des critiques contre la RDC. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Le Parlement d'ailleurs de la Suisse voulait demander à ce que l'aide au développement en RDC soit coupée.
La Suisse avait par ailleurs démenti.
Parce que oui, on s'était étonné de voir que dans moins de quelques jours, une délégation, puisque quand au niveau de la RDC, quand le président Félix voyage, il voyage avec des centaines de gens. En tout cas, dans peu de temps, ils avaient consommé environ 500 000 euros, je crois, et ça créait des problèmes, bien sûr. Il y avait des rumeurs comme quoi on voulait couper l'aide au développement, ça a été démenti, bien sûr. Mais ça a été quand même un scandale de voir que, quand nous voyageons, hein, en tout cas, au lieu de réfléchir sur la matière, on se rend compte que beaucoup de gens voyagent pour aller découvrir peut-être la Suisse, et au lieu de,
achats,
oui, faites, voilà. Hein? Donc on va pour le tourisme au lieu d'aller pour la matière qui vous a amené.
Beaucoup d'argent est déposé dans les banques suisses.
Oui, c'est un problème.
Bon, il faut quand même rafraîchir la mémoire de nos auditeurs. Si c'est pour parler, vous reprendre en Suisse, c'est après le 15 novembre 2025, lors de la signature de l'accord cadre de Doha. Cet accord qui dispose de 7 protocoles et sur lesquels les discussions doivent porter régulièrement jusqu'à au moins à épuiser tous. Ils s'étaient mis sur le premier, le deuxième, ils se sont mis d'accord, mais ça piétine, ça patine, ça ne marche pas. Le premier, c'est le mécanisme de suivi du cessez-le-feu. Et le deuxième, c'était l'échange des prisonniers.
Les mesures de confiance.
Oui, oui. Mais jusqu'à ce moment, ça pâtit, je ne comprends pas. Mesures humanitaires, c'est ça comme c'est parmi les sujets. Mais l'humanitaire, ça rentre dans le troisième point, alors que le premier, le deuxième, ça patine, ça traîne à se voir sur le terrain. C'est ça le problème, c'est la question que je me pose. Alors, ils vont aussi parler du désarmement. Oui, c'est prévu. Désarmement, c'est le quatrième point, justement. Désarmement, c'est dit désarmement du M23. Cela signifie que est-ce que, voilà, donc ils doivent répondre aux questions. Est-ce que c'est le M23 qui va intégrer les FRDC, bon, qualifié par ailleurs, c'est un détail de clochard par à une époque par le président de la République. Est-ce que ce sont les FRDC qui vont intégrer le M23? L'armée révolutionnaire congolaise. Est-ce qu'il y aura une fusion? Voilà, sur ces points-là, ce sont des questions auxquelles il faut répondre. Est-ce que, je me dis ceci, c'est maintenant qu'en Suisse, en reprenant les négociations, qu'on doit trouver une solution à cette question. D'ailleurs, elle est cruciale, parce que d'un côté comme de l'autre, personne ne veut lâcher du lest. Personne. C'est pour cette raison que je dis ceci. Nous risquons de continuer dans cette guerre d'attrition entre l'AFCM 23 et le gouvernement de la République. C'est une guerre d'attrition qu'il se livre, c'est-à-dire on laisse pourrir la situation, on laisse
en 2028.
Chacun fait ce qu'il veut là où il est, et voilà, on croise les doigts, on est en train de s'user mutuellement. C'est ça, c'est le sens, le genre de guerre auquel nous assistons. Et donc, je suis un peu pessimiste quant à la réussite. Je préfère plutôt parler d'un début, d'une reprise de discussion, hein, quitte à les poursuivre dans les jours, dans les mois à venir. Mais croire que la reprise, parce que j'ai suivi dans la presse, plusieurs sources disent que non, il y aura une forte pression, parce qu'effectivement, ce qui parraine les pourparlers en Suisse, c'est les États-Unis et le Qatar. Et que comme, parce que Mansard Boulos était toujours là depuis le Qatar. Il n'y a rien de nouveau. Qu'est-ce qui va permettre à ce qu'il fasse? Voilà, il y a des personnes. C'est ce que Habibou a dit. Il y a une fascination de certaines personnes pour les États-Unis. Il y en a qui nous disent dans la rue que non, il y a Trump est à Malise. Est-ce que nous sommes vraiment des aveugles pour ne pas voir que le monsieur est suffisamment occupé par les affaires moyen-orientales que nos affaires? Donc, pour moi, je pense que c'est un sentiment un peu mitigé. Mais quant au problème de visa, de documents, non. Mes sources disent que ça, c'est l'apanage de la facilitation. Et qui ont déjà pris les mesures pour que toute la délégation de l'AFCM 23 puisse être bien.
L'autre question, est-ce qu'on ne pouvait pas se réunir en Afrique? Est-ce qu'il n'y a aucun pays africain qui peut recevoir la délégation des Congolais? Parce que les gens de l'AFCM 23 sont des Congolais, le gouvernement de la RDC sont des Congolais. Est-ce qu'ils ne pouvaient pas se rencontrer peut-être en Angola, peut-être au Gabon ou au Sénégal?
C'est un problème des intérêts stratégiques. Hein, parce que l'Afrique avait choisi Luanda pour la facilitation.
Nairobi d'abord.
Oui, tout est parti d'Nairobi. C'est Nairobi, Kampala, Nairobi, Kampala, puis Luanda. Luanda, c'est depuis longtemps, depuis que le président Santos était à la tête de CIRGR. En fait, à l'époque, il y avait deux parties. Luanda, s'occuper des questions entre la RDC et le Rwanda. Nairobi, c'est le problème congolais. Kinshasa et ses adversaires militaires, armés plutôt. C'était ça. Et puis, Félix avait choisi qu'on puisse mettre ensemble. On a amené à Rwanda. À Rwanda, les juges devaient avoir un accord. C'est juste qu'on a appris de ma tête pas. On est à Doha. On est tous rentrés à Doha. Donc, ça, ce sont des intérêts, des grands intérêts qu'il y a dedans. Parce que, en fait, la guerre, c'est pas la guerre des Congolais. Hein? C'est la guerre des Américains. L'ancien président américain.
Obama?
Avant Obama. Le démocrate, là, l'homme qui avait fait le scandale à la Maison Blanche.
Démocrate? Clinton.
Oui, Clinton. Bill Clinton. Bill Clinton. Oui. C'est Clinton qui avait décidé cette guerre. C'était à Dakar.
Ah bon?
Oui. Il venait faire sa tournée en Afrique. Après le Rwanda, il a réuni les gens à Dakar. Et c'est là qu'il a décidé la guerre en RDC. Il a dit non. La RDC menace ses voisins avec les gens qui sont dans les camps des réfugiés, tout. Il faut arrêter rapidement. Parce que les éléments à notre disposition sont tels que ces gens veulent attaquer les Rwanda. C'était ça le motif. Et tout est parti. N'est-ce pas? Ça, c'est l'AFDEL. Mais pendant ce temps, il y a des eaux passées sur les ponts. Il y a des élections dans ces pays. Il y a des élections. On a eu une constitution, on a eu des évolutions. On a fait presque 10 ans sans guerre. N'est-ce pas? La question aujourd'hui, pourquoi la guerre a repris? C'est la question aujourd'hui. Pourquoi la guerre a repris en 2020, je crois, 21.
Donc, voilà, c'est la grande question. Je comprends que ce sont des intérêts parce que, que ce soit à Doha ou en Suisse, en tout cas, ils vont s'asseoir autour d'une table.
Ouais. Hein? Mais j'avais contrôlé. Tout le monde veut contrôler.
Même en Afrique. Oui. Est-ce que c'est en Afrique qu'on permet que les gens viennent sans documents? Voilà. Non, c'est pas si bon. Si vous les organisez par exemple en Égypte, vous pensez que vous pouvez. Bon, c'est nous qui venons négocier et vous n'avez pas de passeport et l'Égypte va faire entrer.
Vous avez sollicité.
Je crois que la solution, c'est celle-là, c'est que les facilitateurs ont pris des choses en main, ont posé les problèmes. Je pense que d'ailleurs, heureux soient les amis qui iront là-bas pour le compte de l'AFCM23, parce que au moins ils auront leur passeport grâce à ça, parce qu'ils ont ça. Parce que pour arriver en Suisse, mais nous, pour trouver un passeport, mon cher.
Oui, parce que bon, c'est une question des Congolais. Pourquoi aller vite en Europe au lieu de rapprocher? Parce que bon, le rapprochement de ces négociations donnerait, à mon sens, plus de crédibilité. Mais tout ce qu'on va décider là-bas et puis en fin de compte venir appliquer ça ici. Est-ce que vous ne trouvez pas que
c'est pour ça que les évêques demandent de se mettre ensemble.
Se pose un problème de passeport. Banaza Chagula va mourir.
Il y a aussi sanction. Les choix de la Suisse aussi peuvent s'expliquer par le fait que les non-alignements politiques de ce pays. Ils n'ont sont ni ils ne sont pas
réalisés.
Oui, c'est officiel. Ils se disent ne pas être ni de gauche, ni de droite, ni du centre.
Il faut interroger leur assistance humanitaire. Il faut interroger leur assistance humanitaire. Les orientations humanitaires.
Vous pensez que les pays africains sont rangés?
Non, c'est pourquoi. C'est pas un problème des pays africains. C'est un problème de contrôle stratégique de la RDC. C'est tout simplement. On veut contrôler stratégiquement la RDC. Le Qatar a des intérêts dans la région, les États-Unis ont des intérêts, tout le monde veut contrôler. Voilà.
Si on va laisser ça vite, rien d'accord.
Voilà pourquoi, Thaïs, voilà pourquoi nos évêques, ils crient matin, midi, soir, mettons-nous autour de la table, l'agenda est là, discussons cet agenda-là, c'est tout. On est tourné à travers le monde, on est en train de s'amuser avec les Congolais,
on perd l'argent,
les gens meurent matin, midi, soir. Congolais. Mettez les Congolais ensemble, ils peuvent trouver des solutions entre eux. C'est possible.
Oui, on peut créer de l'espace, même au niveau de la RDC. Bon, il y a déjà la MONUSCO qui est déjà acceptée. Bon, il y a moyen, je crois, de créer un espace.
Oui, c'est possible.
Même en RDC, on se rencontre autour d'une table. Dans une zone peut-être neutre, sécurisée par, je ne sais pas.
Si les uns et les autres mettaient la souffrance du Congolais au centre du débat, il n'y aura plus de problème. C'est parce qu'on a des intérêts partisans que ça divise.
Voilà, et il y a on va. Oui.
Bon, la première des choses, il ne faut pas dire que la guerre au Congo, ce n'est pas une guerre des Congolais. Okay? Ce n'est pas une guerre des Américains. faut pas toujours chercher à externaliser nos problèmes. Moi, en ce qui me concerne, je sais que nous avons des causes profondes que nous connaissons, qui font que nous sommes en guerre aujourd'hui, que nous sommes en révolution. Ce n'est pas une guerre des Américains, ce n'est pas une guerre de qui que ce soit à l'extérieur, c'est la guerre puisqu'il y a des problèmes internes que nous devons résoudre. Les anciennes rébellions, puisque c'était des rébellions, sont allées vite, puisqu'elles n'étaient pas stratégiquement préparées pour les changements. Okay? C'est là que je vais compléter le maire de la ville. Ce n'est pas qu'il faut aller vite en ne résolvant pas les problèmes. Nous, on veut que ce soit la dernière guerre qu'on puisse vivre au Congo. Donc, il ne faut pas penser que c'est la guerre des Américains. C'est pour ça que peut-être seul dire que c'est de l'AFDEL était pour les Américains, les Européens, ainsi de suite. Mais la nôtre, elle est appelée révolution puisqu'elle est interne. Elle n'est pas dictée par l'extérieur. C'est ça la grande différence. Il faut que M. Oswald puisse avoir quand même cette nuance-là. Mais alors, nous disons...
C'est un débat.
Nous sommes pour la paix. Partout où on nous amènera, nous serons là. Si nous cherchons cette paix-là, pourvu que nous puissions avoir des interlocuteurs qui ont la bonne foi. En ce qui concerne les négociations, au moins nous savons tous, nous sommes d'ici. Quand on va vers les négociations, il y a ce qu'on appelle les préliminaires, n'est-ce pas? Les choix d'idées, n'est-ce pas? Les choix d'immédiateurs, n'est-ce pas? Et donc tous ces aspects techniques doivent être résolus avant les jours, n'est-ce pas? Que les négociations puissent commencer. Et donc moi je me dis, des sanctions. Moi, je rêve un jour où peut-être un État africain sanctionnera des citoyens américains. Est-ce qu'aujourd'hui, Trump n'est pas sanctionnable? Est-ce que tous ceux qui sont les Israéliens là, est-ce qu'on ne peut pas aussi les sanctionner? Et donc, pour nous, quand un État étranger sanctionne ou pas, ça me dérange en quoi? Ça me dérange en quoi? Mais nous disons, en tout cas, ce qui nous concerne, c'est d'abord les Congolais, sa dignité à l'intérieur comme à l'extérieur. Déjà ça montre qu'à l'extérieur, notre dignité a disparu. Qu'on puisse nous considérer comme, déjà qu'on peut sanctionner quand on veut, qu'on puisse nous considérer comme peut-être des moutons, des chèvres, ainsi de suite, c'est pas normal. Tout ça montre la mauvaise gouvernance de notre État. C'est à Kinshasa de pouvoir jouer son rôle présentement, puisque ce sont eux qui sont considérés comme vraiment un État, moi je mets ça entre guillemets, ils ont le pouvoir, ils ont les institutions, ainsi de suite. Mais nous, en ce qui nous concerne, c'est déjà une reconnaissance internationale, n'est-ce pas? Quand vous dites que nous allons négocier à Doha, quand vous dites que nous allons négocier en Suisse, c'est déjà une reconnaissance internationale. En Doha, c'est déjà une reconnaissance. C'est que nous sommes déjà une entité politique reconnue sur le plan national et sur le plan international. Et donc, à ne pas traiter comme si on dit tel a été sanctionné. Qui l'a sanctionné? Qui l'a sanctionné? Tel a été sanctionné. Qui nous a sanctionné? Et en tant que qui pour nous sanctionner? Donc je crois que sincèrement, nous devions avoir en tête que quand on est révolutionnaire, on se fie de tous ceux qui, je dis je suis tel, je suis tel. Et donc il y a des causes profondes qui font que nous sommes là. Et ce sont ces causes que nous allons défendre à l'intérieur comme à l'extérieur de notre pays. Les Congolais ne peuvent pas continuer à être considérés comme un sous-homme. Bon, des réfugiés congolais qui sont à l'extérieur, mais qu'on ne sait pas ramener, mais qu'on va nous ramener, ce n'est pas des expulsés. Logiquement, quand quelqu'un est expulsé d'un pays, on le ramène dans son pays d'origine. C'est ça les droits, non? Quand quelqu'un est expulsé d'un pays étranger, on le ramène dans son pays d'origine. On ne peut pas avoir des expulsés qu'on va transplanter dans un autre État et que cet État-là,
sauf s'il a fui la persécution.
C'est clair. Et c'est là que
nous disons,
parmi les causes profondes de notre révolution, il y a la faillite de l'État dans toutes ses structures. Déjà, si vous acceptez d'accueillir des expulsés, ok, des drogués dans votre pays, est-ce que vos institutions peuvent être prises au sérieux? Est-ce que le Parlement congolais existe encore?
Merci.
Est-ce que le ministère des Affaires étrangères existe encore? Est-ce qu'il y a encore un président dans ce pays? Et donc, tout cela, ce sont des questionnements que nous estimons, que nous pouvons mettre à table. Ce n'est pas la question des Américains que nous allons défendre. C'est pour ça qu'Oswald, notre révolution n'est pas une révolution américaine. Ils ont connu leur révolution. La France a connu sa révolution. La nôtre, c'est celle-ci.
Voilà. Merci le maire. Oui, nous allons terminer dans quelques instants, oui.
Voilà, je l'ai dit un peu plus tôt, il faut que les gens prennent position. Nos amis de la société civile, et je pense ici même au prix Nobel de la paix, mais aussi la classe politique. ils ne doivent pas jouer au borderline. À un moment, ils reconnaissent qu'il y a des défauts, mais à un autre moment, on commence à nous inventer des histoires que c'est des guerres des Américains. Ce n'est pas des guerres des Américains. On connaît tous l'histoire. Nous savons ici, récemment, même avec les derniers soi-disant gouverneurs, qui est maintenant plus ou moins maire de la ville de Louvira, à Porusi, on a vu son élection, on a vu les injonctions venant de Kinshasa. Et il faut quand même dire la vérité. Depuis 2006 jusqu'en 2025, le système a failli. Il y a des jeunes qui sont nés dans des camps. Vous allez juste en face ici au Rwanda, vous allez en Ouganda. Des jeunes qui sont nés, qui ont refusé d'adopter les nationalités étrangères parce qu'ils sont fiers d'être congolais. Ils vivent dans des camps, dans des petites bâches, mais parce qu'ils veulent rentrer chez eux. Et qu'a fait l'État pour eux? Rien. Il faut quand même savoir dénoncer l'injustice. Mais c'est là où les intérêts se font. Moi, je ne vois pas les intérêts des Américains. C'est normal que les Américains et tous les autres jouent leur carte diplomatique sur l'échiquier international. Mais nous, on a plutôt des acteurs qui pensent que si je fais ça, tel sera comme ça, et qui ne se battent pas pour la justice, qui ne se battent pas pour que le Congolais soit au centre. Et c'est ça le sens de cette révolution. Alors, partout où on invitera la FCM23, l'AF se l'a déjà dit. Nous avons été les premiers à recevoir les évêques. Nous leur avons dit que nous sommes partants. Mais Kinshasa a refusé. Au moment où nous parlons, quelle est cette organisation de la société civile? Quel est cet acteur connu qui condamne les drones, des attaques de drones sur Minembwe? Qui condamne les drones, les attaques de drones sur plusieurs autres entités sous contrôle de l'AFC? Mais si l'AFC se permettait, ne fût-ce qu'un jour... Et j'ai vu là tout le monde, on est allé détruire une base de drones à Kisangani pour éviter qu'il y ait des menaces. J'ai vu même le plus Nobel écrit. Bon, pourquoi il n'écrit pas quand on bombarde Minembwe? Pourquoi il n'écrit pas quand on bombarde d'autres endroits? Donc, c'est le problème des intérêts, ce n'est pas un problème des étrangers. Les étrangers ont leurs intérêts. Le problème des intérêts, c'est des soi-disant leaders de chez nous qui ne savent pas tracer la ligne entre le noir et les ténèbres et la lumière, entre la justice et l'injustice. Ils veulent jouer le borderline. Et c'est ça ce qui nous amène là où nous sommes aujourd'hui. Les évêques ont demandé le dialogue. Mais l'AFCM23 avait parlé du dialogue depuis bien avant. Mais en face de nous, qu'est-ce qu'on a? On a quelqu'un qui change d'endroit de négociation. On commence ici, après, il ajoute. C'est un peu la théorie de Charles Pasqua. Vous créez une affaire dans une affaire, jusqu'à ce que personne ne se retrouve. Malheureusement pour lui, il y a une détermination. Cette détermination, elle est là. C'est de servir le pays. C'est de servir le peuple. Vous avez vu, en 2-3 jours, nous avons pris le contrôle d'Ouvira. Et c'est possible en 2-3 jours d'arriver à Kalemi. C'est possible en 2-3 jours d'arriver à Kisangani. Mais on ne le fait pas. Pourquoi? Je vous l'ai dit. Parce que ce n'est pas... on n'est pas belliqueux. L'esprit, ce n'est pas de faire la guerre. La guerre a un prix. L'esprit, c'est plutôt de changer la façon dont les choses évoluent dans ce pays. Et d'une manière pérenne. Il y a des choses à discuter. Il y a des choses à refaire. Il y a des erreurs du passé qui sont connues. Donc ce n'est pas une guerre des étrangers, c'est une guerre des Congolais. Des Congolais qui se battent pour leur dignité. Et vous voyez beaucoup de ces jeunes qui aujourd'hui portent des armes, ce n'est pas parce qu'ils l'ont voulu, on les a forcés. Pendant longtemps, ils ont demandé de rentrer. Jusqu'au moment où nous parlons, on continue à amener des étrangers, mais on ne veut pas amener nos propres enfants. Simplement parce qu'on prétend que non, voilà, ils parlent le Kinyarwanda. Mais je n'ai jamais vu... des gens faire beaucoup, le Rwanda faire de la guerre avec nos amis qui vivent pas les Bashes en face ici. On les a pas chassés pour dire allez chez vous, chez les Bashes. On les a accepté. Et c'est ça la force d'une nation. Donc, ne nous perdons pas dans toutes ces histoires de diplomatie. Je crois que la société civile et certains acteurs politiques doivent savoir, avoir cette intégrité morale pour dire voilà, ici, il y a des erreurs. Et le courage d'assumer. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Et c'est ce qui fait que maintenant, on se pavane de par le monde pour des négociations. Nous, en tout cas, on est ouvert. On est ouvert à des discussions. Les cahiers des charges sont connus. Les demandes sont connues. Mais nos amis en face ont déjà montré encore et encore qu'ils ne veulent pas. Nous avons demandé qu'on relâche les prisonniers. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec cette histoire? Nous leur avons donné plus de 5000 soldats que nous avions. Ils ne sont même pas encore venus les chercher. Donc, vous voyez qu'il y a, non, il y a manque de bonne foi.
Le gouvernement vous soupçonne d'avoir, dans les 5000, d'avoir intégré le vôtre.
Bon, écoutez, Vous voyez, tout ça, ce sont des signes de manque de bonne foi. C'est des signes de manque de bonne foi parce que vous ne pouvez pas vous asseoir sur une table avec nous et on accepte d'échanger des prisonniers et après vous retenez nos prisonniers. Quand on vous donne le vôtre, vous dites que ce sont des espions. Bon, maintenant, est-ce que réellement nous sommes en négociation? Donc, nous voulons donner la chance à la paix parce que ce peuple a suffisamment souffert. Mais si il faut taire les menaces à la base, nous l'avons déjà dit plusieurs fois, nous n'hésiterons pas, nous en avons les capacités. D'accord. La question, c'est que ce n'est pas la première option.
En fait, aussi, Thaïs, un petit complément, Thaïs. Vous savez que le CICR est d'origine d'abord suisse, n'est-ce pas? Avec Henri Dinan. Et c'est le CICR qui était chargé du rapatriement, n'est-ce pas, des militaires de Goma jusqu'à Kinshasa. C'est que le CICR, la Suisse, est déjà impliqué dans ces feuilletons, dans ces conflits.
Oui, Rubacha, oui.
Oui, je comprends très bien que les amis soient en position de défendre leur courant d'idées, je les respecte. Mais la guerre entre les pays a une histoire. Il y a des faits indiscutables. Elle a été lancée par les Américains à travers Bill Clinton. Ce fait indiscutable.
L'ancienne, en tout cas.
Oui, j'évolue. Moi, j'ai posé la question. Aujourd'hui, la grande question pour les Congolais, pourquoi la guerre a repris?
Pour vous, la FSM 23, c'est...
Non, je continue. J'ai dit aujourd'hui la question c'est fondamentale.
C'est l'émanation de l'AFD. Oui,
il y a une histoire. Il y a une histoire et on peut interroger tous ces faits-là. N'est-ce pas? En tant que scientifique, on peut interroger ces faits-là. La question aujourd'hui, pourquoi la guerre a repris? Je l'ai dit encore ici. Pourquoi la guerre après autant de cycles électoraux, après une alternance pacifique, où les Congolais espéraient finalement aller dans le développement réel et durable. C'est la question fondamentale aujourd'hui. Pourquoi la guerre a repris? Effectivement, il y a des problèmes de gouvernance. Effectivement, il y a beaucoup de problèmes internes. Pourquoi il y a l'accord de Washington entre Kinshasa et Kigali? Parce qu'il y a des causes exogènes. Pourquoi? Parce qu'il y a des causes exogènes. Pourquoi il y a Doha? C'est parce qu'il y a belligérance entre Kinshasa et Goma. Et pourquoi les prêtres demandent dialogue? C'est parce que vous tous qui avez pris les armes, Kinshasa et Goma, venez devant les Congolais, dites-nous pourquoi vous vous battez. C'est aussi simple que ça. Donc on peut discuter, on peut discuter avec vous. Moi je comprends votre discours, c'est normal. Mais ayons la culture de vérité. Il y a une vérité historique qu'on ne peut plus altérer. On a connu des cycles. C'est une guerre à plusieurs cycles. C'est une guerre à plusieurs batailles.
La nôtre n'est pas comme celle d'hier.
Analysons les acteurs. Non. On peut analyser qui sont les acteurs internes, qui sont les acteurs externes. Ces acteurs visibles, des acteurs visibles, des opérateurs du secteur minier, internationaux. Ils sont dedans, ils ne sont pas dedans. Pourquoi on est à Doha? Qatar, donc on peut interroger les acteurs, on peut interroger les modes opératoires des uns des autres, on peut interroger les discours des uns des autres. Et on se fait une lecture, une bonne lecture.
D'accord.
Je comprends, il y a des raisons pour les Congolais se révolter contre la gouvernance, contre la dictature qui s'installe dans les pays. Mais alors le débat, on le fait par les armes, on le fait par la démocratie. C'est un débat ouvert, n'est-ce pas? Si certains choisissent les armes.
Le pays s'organisera peut-être.
Oui, prochainement. C'est-à-dire, donc il y a une mauvaise gouvernance, il y a une dictature sociale. On la combat comment? Par les moyens violents ou par les moyens non violents? C'est une philosophie aussi.
Les moyens non violents ont échoué.
C'est ce que j'ai dit, hein. C'est un débat, n'est-ce pas? Et c'est vrai, j'ai dit le choix, quand j'ai pris la parole par rapport à mon frère, c'est son choix légitime, mais discutable. Parce que c'est un débat, n'est-ce pas? Nous sommes tous Congolais. Moi, je travaille dans le domaine électoral.
Ce n'est pas discutable.
Moi, je suis dans le domaine électoral. Bon, moi, je crois aux élections, n'est-ce pas? Moi, je crois aux élections comme moyen de révolutionner une société. C'est normal, quelqu'un d'autre peut croire à autre chose. Ça, c'est un débat démocratique dans un pays où on n'est pas sous le coup des balles. Et si nous demandons qu'on arrête le coup des balles...
On peut encore à des élections triquées, trichées.
J'ai dit, je crois à des bonnes élections. Je crois à des élections
vous avez déjà eu quand?
Bon, ça c'est un très débat, mon cher ami. J'ai dit, le débat est clair. Il y a une option à lever. On est face à une dictature qui s'installe. On la combat comment? Est-ce que les 100 millions de Congolais ont été consultés pour faire la guerre ou les 100 millions de Congolais ont été consultés pour faire la non-violence?
Voilà qu'on soit des bien inspirés. Bataille, est-ce que tu peux reprendre?
C'est un débat. On peut construire. Voilà. Pas comme tu veux.
Il est très bien inspiré pour des émissions. Franchement.
D'accord.
face à face.
Merci beaucoup. Voilà, on va terminer. Bossingisi.
Bon, en fait, je viens de suivre les échanges entre les amis de la société civile et du pouvoir actuel.
Ouais.
Mais j'ai quand même une petite préoccupation par rapport à notre ami Oswald.
Ouais.
Parce que nous avons eu la guerre de sécession de 1964.
Ouais.
Nous avons eu une guerre ici à Bukavu en 67, 68, ici, Scram. 79, la guerre du Shaba.
Ouais.
80, la guerre du Shaba. Et 96, la guerre de l'AFDEL. 98, la guerre de l'RCD.
2004.
Et puis, bon, jusqu'à présent. Mais est-ce que vous pouvez nous dire maintenant 2004, qui sont les commanditaires de toutes ces guerres?
La guerre de Mouterousse.
Oui, oui. Mouterousse,
2004. Hein?
Oui.
Bon, je vais juste compléter. Vous voyez, et c'est ça le discours. J'espère que nos amis de la société civile vont sortir de ce narratif. Et nous, nous disons une des causes profondes de cette guerre, c'est qu'au fait, il y a l'esprit génocidaire qui est entré dans nos narratifs. Le doyen, je te le dis, depuis l'indépendance, juste après l'indépendance, le Congo a connu des instabilités. Mais aujourd'hui, tout le monde accuse le Rwanda. Mais j'ai dit, mais le Rwanda en 61 d'abord, avec Lumumba, 64, le Rwanda était où? Ce sont des problèmes d'instabilité institutionnelle qui nous ont conduits où nous sommes aujourd'hui. Donc c'est bien facile de jouer avec la carte rwandaise parce qu'on a eu presque tout un pays qui a migré ici, certains on peut même se sont perdus dans la nature, et donc cette fibre-là, on peut la jouer. Mais pourquoi on ne condamne pas l'Ouganda ou l'Afrique, le Centrafrique? Parce que partout là-bas, il y a aussi des problèmes d'insécurité.
Voilà.
Pourquoi on ne condamne pas? Récemment, il y avait un conflit avec la Zambie sur une île. Mais on veut stigmatiser le Rwanda.
On ne sait même pas condamner le Burundi ici à côté.
Oui, et même le Burundi. Mais on veut. Parce qu'il y a cet esprit génocidaire.
D'ailleurs,
qui est revenu. Et c'est pourquoi nous disons changeons de narratif. Il y a dans chaque guerre des enjeux régionaux et tout ça, ça c'est normal. Mais
c'est une question
congolaise.
Voilà.
Les évêques,
on va terminer.
Pour répondre à la question de Roger,
on va terminer. Au niveau national, je crois qu'on trouvera.
S'il vous plaît, pour répondre à la question, moi je l'ai dit, la guerre a une histoire dans
ce pays. C'est J.P. Bossingisi qui avait la parole.
S'il
vous plaît, Bossingisi qui avait la parole.
Vous n'avez pas fini.
Je n'ai pas fini, c'est-à-dire que nous devons. Il faut être un peu nationaliste.
Et objectif.
Objectif nationaliste, c'est-à-dire quand nous avons des problèmes. Ce sont nos problèmes.
Oui, alors.
Et cherchons les causes chez nous.
Voilà pourquoi je suis avec les évêques. Je soutiens les évêques.
Je crois que c'est Bill Clinton qui décide de la guerre ici. C'est Trump, c'est ceci. Moi, je pense que c'est un discours qui peut être dépassé.
C'est possible.
Nous devons nous-mêmes étudier les causes, comme ils disent, les causes profondes, et nous-mêmes trouver des solutions. Comme les Iraniens, ils ont mené une révolution. Et ils se sont confirmés dans le monde, en faisant échec à une grande puissance comme les États-Unis.
C'est pour ça que moi, je suis dans la logique des évêques.
Oui,
mettons-nous ensemble, parlons.
J'ai peur de Bossingisi.
Mais est-ce que vous pensez que l'AFCM 23 peut mener la guerre sans l'appui extérieur?
Mais il n'y a aucune guerre.
Vous voyez comment ils sont organisés?
Donald Trump pleurniche sur le toit du monde. Pourquoi l'OTAN ne m'aide pas?
Il mène des formations idéologiques, vous sentez qu'ils sont organisés. Et quand vous voyez, bon, on peut peut-être comparer, vous voyez leur police, bon, les gens peuvent ne pas les dire, mais sur la route, vous qui roulez avec le véhicule, vous voyez la différence entre l'ancienne police et celle que nous voyons aujourd'hui. Ils régulent la circulation. Parce que à un certain moment, Simamisha carrément, alors que vous avez tous les papiers. Mais bon, ceux qui sont là, c'est pas pour le vanter, ne sont pas de la FCM 23. Vous constatez qu'ils sont
là. Il faut la sécurité
alors,
dans la ville.
Cette discipline-là, vous pensez qu'elle est interne ou c'est venu de quelque part? Voilà.
Bon, disons ce qui intéresse, c'est la discipline. On ne cherche pas à dédouaner qui que ce soit. Mais bon, la guerre, il faut toujours la comprendre. Quand on mène une guerre, il faut toujours avoir des alliés. Même pour libérer l'Europe. sont les États-Unis.
Mais c'est ce que Rouvache était en train de dire.
Ils sont venus aider ceux qui voulaient
s'aider. Les uns les autres, que ce soit le gouvernement de Kinshasa, que ce soit la FCM23, tous ont des alliés.
Les acteurs, il y a des acteurs visibles et non visibles. Ouais. C'est tout. Ouais. L'Ouganda, nous on a toujours dénoncé la peau de Kinshasa, de fixer sur le Rwanda, parce que nous savons les rôles négatifs du Rwanda, surtout quand on est en Ituri. Petit c'est à Bukavu. Oui, Ouganda. Quand on est à Bukavu, à Goma, on ne voit pas ce que l'Ouganda fait dans notre pays. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que je dis, analyser les acteurs, visibles et invisibles. Et moi, les discours génocidaires, ça ne vient jamais de moi.
Parce qu'on a dit, moi, on a dit ici qu'à Kisangani, on a détruit. Quoi? Qu'est-ce que le maire a dit? Oui, des drones là-bas. Vous pensez que cette force est venue d'où?
Non, c'est normal d'avoir des alliés. C'est très normal venir une guerre. Il faut avoir absolument des alliés. Ça, c'est clair. Ça, c'est
on clair. Peut avoir des alliés, mais ça, la guerre ne devient pas la guerre des alliés. C'est ça la différence.
C'est clair. Je dis des alliés.
On a des alliés, mais la guerre n'est pas des alliés.
Oui, c'est
la
clair.
Guerre, elle est dans la tête de quelqu'un. Elle est sur son cœur. C'est ça la vraie guerre. C'est pas la guerre, même si vous amenez les Américains.
Et là, vous avez l'obligation.
Ça ne fera pas peur à nos soldats.
Et là, vous avez la mission de convaincre.
On va terminer. Merci beaucoup.
Essayez de convaincre.
Merci.
Et puis, personne ne parle de ce que les AD font en Ituri.
Voilà. Non, merci.
Mais qui en parle?
Lisez.
Qui en parle?
Lisez.
Aujourd'hui,
non,
qui
lisez,
en parle?
Lisez.
Alors que
les gens produisent des rapports. Et lisez.
Qui?
Nous produisons des rapports.
Et vous dites quoi? Les M23 a tué.
On parle des ADF. J'ai parlé des Ituri. Quand on est à Goma, quand on est à Bukavu, on ne voit pas le mal que l'Ouganda fait dans cette zone-là.
Vous ne voyez même pas le mal des Bazalendu qui sont ici à côté, non?
S'il vous plaît, ne prenez pas la parole de manière désordonnée. Nous allons remercier les uns les autres.
Et tous les auditeurs.
Merci au maire de la ville, Nicolas Kalangalilo. Vous voyez qu'il est resté le même, quelqu'un qui aime débattre. Et c'est ça la démocratie. Merci à Elie Abibou également. Merci à l'autorité provinciale qui vous a autorisé d'être ici. Merci à Jean-Pierre Bossingissi pour vos analyses. Merci au salle de Rubacha. Merci Désiré Kiakouma. Merci également au technicien Jean-Claude Ndague. La rediffusion de cette émission, c'est demain lundi 19h30 sur Radio Mendeléo. Merci, bon dimanche.
Merci.
Merci beaucoup. Voilà.